Bonjour, bienvenue sur Bagro.point pour un nouveau podcast. Je crois que c'est le huitième podcast aujourd'hui.
Huitième.
T'as vu comment on avance?
Oh
encore
là là, déjà.
On pourrait
deux
dire
ans, quatre podcasts par an. Du coup,
c'est pas mal. On pourrait dire même que c'est le neuvième vu qu'on a fait un podcast en deux parties sur World Heroes.
C'est vrai.
Tu triches, tu triches.
Non, je prends neuvième.
Non, bon allez, huitième. Il est numéroté numéro 8. Et aujourd'hui, dans ce podcast numéro 8, nous sommes avec l'équipe habituelle, c'est-à-dire à ma gauche TMDJC.
Coucou tout le monde.
En face de moi, Frionel.
Ah oui. Salut.
À ma droite, il y a Wellcook.
Bonjour public.
Et on peut dire que c'est toi qui présente Nathan.
Oui, bon, je crois que les gens ils ont compris. Plus certains.
Bonjour Nathan.
Oui, mais tu ne te présentes pas.
Donc Nathan est en face. TMDJC est à ma droite alors qu'il est assez compliqué.
Non, là, c'est compliqué. Allez, venons-en au vif du sujet. Après avoir fait de multiples embranchements dans d'autres séries, aussi bien de SNK que de Capcom, que de pas SNK, voire pas du tout Capcom.
Midway, on a parlé, voilà, Mortal Kombat
et autres. On revient à SNK avec cette fois un retour. Après un retour sur la saga Street Fighter 2, on va revenir sur la saga Fatal Fury et entre autres sur Fatal Fury 2 et Fatal Fury spécial.
Ouais, Garo Densetsu.
Encore un jeu Neo Geo.
Encore un jeu Neo Geo. Deux jeux Neo Geo même. De toute façon, on peut difficilement passer à côté des jeux Neo Geo quand on fait un podcast de jeux de baston dans les années 90.
Ouais, ce que j'allais dire, particulièrement à l'époque, du coup, hein, quand on remet les choses dans le contexte, on peut peut-être situer le contexte historique de l'époque.
Parce que ça fait longtemps qu'on a enregistré le podcast sur Fatal Fury, donc même pour nous-mêmes, on va se remémorer un petit peu où est-ce qu'on s'était arrêté, où est-ce qu'on en était. Alors, Fatal Fury 2,
C'est 1992.
D'accord.
Alors, 1992.
1992, c'est la sortie de World Heroes, c'est la sortie de Mortal Kombat, c'est la sortie des deux suites de Street Fighter 2, donc le Dash et le Turbo. Mm-hmm. Donc pour vous situer le contexte, alors il faut savoir que Fatal Fury sort le 10 décembre, donc on est à la toute fin d'année 92, et que Street Fighter 2 Turbo vient juste de sortir. Là, on est.
Tu veux dire Fatal Fury 2 ?
Fatal Fury 2, j'ai
dit Fatal Fury, c'était plus très clair.
Excusez-moi, c'est Fatal Fury 2.
Voilà, vient de sortir,
donc il sort juste après Street Fighter 2 Turbo, donc la bourre dont on parlait entre Capcom et SNK là est omniprésente, et contrairement à un Capcom qui a souvent, alors c'est pas pour critiquer le travail, mais qui a souvent dans ces périodes-là s'est dépêché de terminer ses jeux pour absolument vouloir faire en sorte qu'on parle de tel ou tel jeu, SNK a bien travaillé son Fatal Fury 2 et était très content de ce qu'il avait fait au moment où il l'a sorti. Voilà.
Il faut rappeler aussi, à juste titre, que le développement de Fatal Fury 1 s'est fait en parallèle de celui de Street Fighter 2 et qu'il était à la base censé être une contre-attaque à Street Fighter 1.
Voilà.
Donc on peut dire à juste titre que ce Fatal Fury 2 allait être au standard d'un Street Fighter 2 puisqu'il rééquilibrait en fait la balance, c'est-à-dire par rapport aux standards qui ont été mis en place par Street Fighter 2, voilà, ce que n'avait pas fait Fatal Fury 1 qui lui était vraiment parti du concept de Street Fighter 1 puisqu'on rappelle de toute façon c'est les mêmes gens qui sont derrière les deux jeux et que là où Fatal Fury 1 aurait pu battre de l'aile face à un Street Fighter 2, bah on attendait beaucoup du fameux Fatal Fury 2 qui normalement devait remettre les pendules à l'heure.
D'accord, rééquilibrage des forces total en fait.
Ouais, c'est-à-dire que là il s'adaptait au standard qui a été établi par Capcom via Street Fighter 2.
D'accord. Tu voulais dire
non, je voulais juste dire que aussi à partir de depuis la sortie de Street Fighter 2, SNK a sorti plein de jeux de combat et il y en a aucun en fait qui allait piocher et qui a regardé de près Street Fighter 2 pour aller piocher des choses et voir ce que celui-ci avait apporté au genre. Ils ont apporté d'autres choses, des jeux SNK.
Je nuancerais en disant qu'ils ont essayé de calquer au plus proche et qu'ils n'ont pas trouvé au départ ce qui faisait l'essence.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que dans Fatal Fury 2, là, par contre, ils ont vraiment décortiqué Street Fighter 2 pour essayer d'intégrer ça dans
on va y revenir, mais il y a une nuance on va dire entre le 2 et le spécial, mais on va y revenir un petit peu après.
Donc maintenant qu'on a recontextualisé, on rappelle, donc c'est les mêmes personnes qui sont derrière Fatal Fury 2 que pour Fatal Fury 1, c'est les mêmes créateurs,
oui,
c'est les mêmes
studios,
même équipe.
Oui, tout à fait, c'est exactement la même équipe, on est toujours avec Ekishi qui est producteur, on a toujours Tsukamichi, je vais y arriver, qui est aux commandes derrière, c'est exactement la même équipe que pour le premier, ils travaillaient a priori très bien ensemble, et on va pas rentrer dans le détail de la conception même du jeu, mais on peut dire que les idées qui naviguaient à l'époque dans l'équipe sur les informations qu'on a fait qu'on sentait qu'il y avait un vrai challenge qui était posé par Capcom et qu'ils avaient envie d'y répondre en proposant un jeu réellement de qualité.
Et au niveau du design, enfin des artworks, c'est Shiroiji, non, qui s'en occupe.
Ah, j'ai un méga doute. Je pense pas que c'est très difficile à retrouver.
C'est Shinkiro qui avait fait les artworks en premier.
Oui, mais c'est pas lui qui est
sur le nom, justement. C'est Shiroiji.
C'est bien possible.
Qui s'occupait des artworks du 2, vu que Shinkiro, lui, avait bossé sur
le spécial aussi, si je dis pas de bêtises.
Non, en fait, Shinkiro revient sur le spécial.
T'es sûr sur le spécial?
Ouais, c'est sûr.
Il fallait qu'il s'occupe de Art of Fighting.
Il s'occupait d'Art of Fighting, en fait.
Voilà. Tout à fait.
Ok, bah, puisqu'on parle justement de direction artistique, on peut parler, de l'aspect, tout ce qui est, justement, artistique, graphique, etc., visuel, on va dire, du jeu. Alors, c'est une refonte totale.
Totale.
On peut le dire clairement. C'est un.
Il n'y a aucun élément graphique ou sonore qui a été repris de Fatal Fury 1.
Le développement est from scratch, comme on dit aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de copier-coller, de reprise, de machin. Même si on retrouve des personnages, certains personnages entre les deux jeux, ils ont été entièrement redessinés. Sprite, c'est pas du tout, rien à voir.
Les sprites sont plus gros, il me semble, si on y regarde bien. J'avais le souvenir
plus gros, non.
Non, mais ils sont plus travaillés, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Il y a plus de maîtrise du pixel art que dans le premier épisode.
Animation est comprise.
Ils sont beaucoup mieux animés.
Ouais, c'est ça aussi. Alors, donc, après les graphismes, on peut parler un petit peu du gameplay, je pense. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le gameplay de Fatal Fury 1? Vous pouvez me rafraîchir un peu la mémoire. Qu'est-ce qu'on en avait dit dans le premier podcast rapidement?
En fait, la particularité, ce qu'avait opté SNK à l'époque pour Fatal Fury 1, c'était une simplicité en comparaison à Street Fighter 1 de Capcom. Donc, avec un gameplay à 2,5 boutons, puisque le troisième servait uniquement pour les shops.
Ouais.
On avait aussi un gameplay assez spécial dans la mesure où seuls 3 personnages étaient jouables.
Ouais.
Et que ça proposait, pas énormément de variété en termes de versus, donc en 1 contre 1. Qu'est-ce que les autres particularités de Fatal Fury 1, c'était aussi la possibilité d'être à 2 sur fait d'affronter à 2 un adversaire contrôlé par l'ordinateur avant de s'affronter. C'était une des particularités du jeu. Après, on retrouvait en général, les mécanismes de Fatal Fury 1, c'est à peu près les mêmes, c'est-à-dire on a des différents coups normaux avec plusieurs hauteurs, accroupis, sautés, etc. Et des coups spéciaux qui s'activaient avec des manipulations, etc. Donc ça, c'était le cœur de Fatal Fury 1. Quand ils sont passés à Fatal Fury 2, ils ont beaucoup beaucoup revu un petit peu. Ah oui, bien entendu, l'autre particularité de Fatal Fury 1 par rapport à Street Fighter 1 et 2, donc c'est la possibilité de s'affronter sur 2 plans différents.
Voilà.
Donc ça, à la base, dans Fatal Fury 1, ça a été mis en place surtout pour privilégier les affrontements à 2 contre 1, parce que ça permettait en fait d'avoir chaque joueur sur un plan pour affronter l'ordinateur. Mais en 1 versus 1, il n'y avait pas vraiment d'éléments de gameplay, il n'y avait pas de grosse influence sur le gameplay, la présence de ces 2 plans.
D'accord. Et c'est ça, en fait, qu'on va retrouver changer dans Fatal Fury 2, entre autres.
Énormément.
On vient t'expliquer que tout a changé.
J'aime bien la façon tous les 3 en même temps. Ah oui, donf complètement, c'était vraiment.
Il y a pas longtemps qu'il y a autant de différences entre Street 1er et Street 2 du nom que Fatal Fury et Fatal Fury 2. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui ont changé entre le premier Fatal Fury et le deuxième en termes de sensations de jeu qu'entre les deux premiers Street Fighter, qui, même si le gameplay est radicalement plus souple, il y a vraiment une base commune entre les deux jeux. Street Fighter 2 a révolutionné par son gameplay, mais s'appuyait clairement sur ce qui avait été fait par la première équipe. Là, dans Fatal Fury 2, on va voir, effectivement, on parlait à l'instant des plans, ou même de la façon de jouer, est complètement différent, et du coup, paradoxalement, s'éloigne de Street Fighter 2, mais va se rapprocher sous certains aspects. On va y revenir dans un court instant.
Alors, écoutez, commençons tout de suite gameplay. Qu'est-ce que vous voulez commencer? Alors, plutôt les évolutions, plutôt ce qui est tout neuf?
On va parler des grosses différences et des grosses révolutions qu'il y a eu entre les deux.
Allons-y.
Alors, tout d'abord, fini le système à 2,5 boutons. Mm-hmm. La première grosse innovation de Fatal Fury Special, c'est de proposer un gameplay à 4 boutons qui va devenir, par la suite, la norme absolue et totale des jeux SNK, et ce pour toutes les années à venir jusqu'à aujourd'hui.
D'ailleurs, c'est le premier jeu Neo Geo qui se joue à 4 boutons.
Ouais.
Le tout premier. Ouais. Donc c'est à cette époque-là où ce type de bande va aussi commencer à se démocratiser.
Ça veut dire qu'ils vont imposer,
va permettre par la suite d'avoir d'autres jeux qui tournent aussi à 4 boutons.
Exactement. Ils vont imposer aux salles d'arcade d'avoir 4 boutons. Ils se sont rendus compte que pour permettre un jeu plus riche, et au moins à la hauteur de ce que proposait la concurrence, ils ne pouvaient plus se permettre d'avoir ces gameplays simplifiés à 2,5 boutons, comme on dit, et qu'ils ont vraiment proposé un jeu. Alors, ils n'auront pas 3 niveaux de coups comme sur un jeu Capcom, mais 2 niveaux, c'est-à-dire les coups forts et les coups faibles.
D'accord.
Pas de coups moyens entre les deux. Donc, c'est un choix qui a été fait, qui aurait pu être fatal, j'ai envie de dire, au positionnement de leur jeu, mais finalement, vu les exigences qui ont commencé à se développer par rapport à l'époque, notamment donc grâce à Street Fighter 2, c'est un choix qui s'est avéré très 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 judicieux, puisqu'il va permettre un gameplay beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est en termes de coûts, de base, etc. Donc au niveau des shops, on retrouve le système à la Street Fighter 2, c'est-à-dire qui s'active avec un gros coup avant plus gros coup au corps à corps. Fini l'animation dans le vent, qui était une innovation pour l'époque et qui va disparaître et ne se retrouver que plus tard dans certains jeux. D'ailleurs, Capcom reprendra ce système-là dans son Street Fighter 03 par la suite. Donc il revit donc 3. 03.
03.
03. Non, c'est dans Street 3. T'as raison, j'ai une bêtise.
C'est ça. Ils vont abandonner ce système de shop wifi avec une animation. Donc, ils vont prendre le système de Street Fighter 2 qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, au corps à corps, on fait avant ou arrière plus un bouton, le gros bouton. Si l'adversaire échappe à la shop, ça nous fait quand même notre gros coup et pas une animation dans le vent. Donc, ça, c'était au niveau de la gestion des boutons et des coups. Donc, bien entendu, les coups de près et de loin n'auront pas la même animation, à l'instar de Street Fighter 2. Les attaques sautées se feront, certains personnages bénéficieront de coups différents s'ils sont une attaque sautée sur place ou en avant. Donc on a vraiment, vraiment, vraiment des coups de base plus détaillés.
D'accord.
Là-dessus, on peut dire que SNK se rapproche, en tout cas pour sa série, de Capcom.
Complètement. Voilà. Complètement. Dans la gestion des normaux, des coups de base, il y a vraiment, vraiment ils se sont complètement basés sur le système.
C'est pas seul, hein. À cette époque-là, tous les jeux de base.
C'était devenu la norme.
Différenciation de niveau de puissance et de différenciation de pied-point. Ça sera le classique pendant très, très
longtemps.
Exactement.
Mais ce qu'on avait vu, c'est que SNK, comme on avait parlé d'Art of Fighting précédemment, qui, pour ce jeu, avait quand même fait des choix un peu plus originaux, j'ai envie
risqué
de dire,
même.
Un peu plus risqué, mais pour leur Fatal Fury 2, qui était un peu leur gros concurrent à Street Fighter 2, ils ont choisi la sécurité en se basant sur un système qui a déjà fait ses preuves.
Était reconnu par les joueurs.
Qui était demandé par les joueurs.
Et arrivé sur la borne, même s'il n'y avait que 4 boutons, de toute façon, tu retrouvais tes marques tout de suite si t'avais déjà joué à Street, quoi.
Mais même des joueurs qui préféraient, Il y a même des joueurs qui préféraient tout de suite n'avoir pas 6 boutons qui étaient pour eux trop importants. Il y avait des joueurs qui étaient rassurés avec ce quatre boutons.
Tout à fait.
C'est un des symboles emblématiques du fait que la série Fatal Fury va beaucoup courir après Street Fighter. C'est un peu une course poursuite où il y en a un qui est devant et l'autre qui est toujours derrière, essaye de s'aligner, de proposer autre chose et qui s'imposera peut-être pas autant que Street Fighter, mais qui sera reconnu du coup par beaucoup de gens à l'époque comme son grand rival.
Mais SNK avec Fatal Fury, Art of Fighting aussi, mais particulièrement Fatal Fury, c'était quand même leur box à idées. C'est-à-dire que de Fatal Fury sont nés énormément d'autres séries. Ils ont inventé des choses qui ont été reprises discrètement par beaucoup d'autres compagnies.
C'est ce qu'on va justement, on va en parler. Ouais. On va parler des éléments du gameplay de Fatal Fury 2 qui sont uniques. Donc certains seront repris, d'autres seront abandonnés par la suite. Mais justement, c'est là où j'allais en venir. Donc là, l'une des grosses nouveautés de Fatal Fury 2 par rapport aux autres jeux, c'est déjà la présence du backdash. Donc ça, c'est une grosse innovation dans les jeux de baston qui deviendra un standard.
Fatal Fury 2, invention du backdash.
Oui.
C'est quoi le backdash?
J'ai un doute.
Saut arrière, on fait un petit bond en arrière, deux fois arrière.
Premier du nom, pas de backdash?
Non, pas avec pression de deux fois arrière.
Ah, petit blanc. Ah, bon, on vérifiera.
Vers l'avant, mais vers l'arrière.
Continue, Frio. Donc tu disais backdash. Mine de rien, enfin de toute façon, dans ce que ça a apporté, de toute façon au jeu, il y avait.
De toute façon, en fait, la grosse innovation, la grosse force.
Surtout que ça te rend invincible, en fait.
C'est surtout ça. C'est que la gestion, en fait, le backdash. Pourquoi j'ai parlé de backdash, c'est que ce sont les premiers, parmi les premiers, à proposer une nouvelle option défensive en plus de la garde, car le backdash permettait d'éviter les coups au moment de son activation. Et ça va donner une nouvelle dimension.
Mon backdash Art of Fighting.
Il était dans le backdash,
mais pas invincible.
Non,
d'accord. En fait, mais c'est ce que je voulais dire.
Donc le vrai backdash,
j'illustrais le backdash par l'option défensive, en fait.
L'option défensive.
L'ajout d'une option défensive. C'est-à-dire que autant dans Street Fighter 2, on était soumis à shop pas shop parce que la garde ne s'ouvrait que via la shop, à part les attaques sautées qui étaient relativement lentes. Là, on permet en fait de contrer ce système de jeu de tic-trop en fait qui avait été pas mal critiqué à l'époque pour Street Fighter 2 en proposant une nouvelle option défensive, et donc qui dit nouvelle option défensive dit nouvelles alternatives offensives et qui rendait le jeu plus profond et plus intéressant. Donc ça, ça a été un choix qui a été fait par SNK à l'époque et qui va devenir un standard puisque la multiplication des options défensives se verra arriver par la suite sur différents jeux où chacun va tenter même de créer sa nouvelle option défensive spécifique comme vous aurez pu le voir dans différents jeux avec l'apparition des paris, des just defense, des focus, c'est que ça va se multiplier les roulades, les esquives.
Et disons qu'aujourd'hui dans les jeux de combat modernes, les possibilités défensives font partie de l'identité du gameplay et chacun essaie de trouver sa petite originalité qui le démarque de l'autre.
Exactement.
D'accord. Et ça, c'est Fatal Fury qui a lancé en fait Fatal Fury 2 qui a lancé cette idée de se dire il me faut une option défensive propre à mon jeu pour le caractériser lui-même.
Exactement. En plus de la garde, en fait, c'est surtout ce qu'a fait SNK et ce qu'on va faire beaucoup de développeurs par la suite. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais disons qu'il y a toujours une option que les développeurs mettent dans le jeu qu'ils ne maîtrisent pas à 100% au moment de la conception du jeu, mais qui donne. En fait, c'est un facteur de liberté et un facteur de multiplication de possibilités qu'ils mettent dans le jeu. Donc, ils n'en voient pas toutes les possibilités au moment de la conception, mais ils savent très bien qu'entre les mains des joueurs, ça va donner quelque chose.
C'est un peu la zone grise, en fait.
Comme on l'exprimait la dernière fois, du coup, après, c'est le joueur qui crée le gameplay. On en parlait la dernière fois. Le fait, là, effectivement, de l'arrivée du backdash change complètement l'ergonomie du jeu et... Bon, là, je fais référence à tous ceux qui auront déjà mis leur doigt sur Fatal Fury 2, mais ce jeu ne se joue pas du tout pareil que n'importe quel autre jeu de l'époque. Il a vraiment une vraie identité. Et le backdash, on en parlait à l'instant,
fait
complètement, intrinsèquement partie de cette
partie-là. Il n'y a pas que ça, justement. Donc, on parle de nouvelles options défensives, qui est le backdash, qui va donner multiplier les possibilités de jeu et qui va permettre aux joueurs, en fait, de creuser un peu plus, donc, leur mind game, c'est-à-dire leur panel de choix et de ce qu'on appelle risk and reward, qui va donner la particularité, enfin, qui va donner un côté un peu plus dynamique à Fatal Fury 2 par rapport à Street Fighter. Donc ça, c'est la première grosse innovation. Deuxième innovation, c'est que, et en plus de donner une nouvelle possibilité de reculer, ils vont proposer une nouvelle manière de s'approcher. Puisque dans Street Fighter 2, on ne peut avancer qu'en marchant en avant ou en sautant en avant. Fatal Fury 2 va aller plus loin en proposant de s'approcher à accroupi. Donc en fait, les personnages de Fatal Fury 2 peuvent marcher en stance baissée. C'est-à-dire qu'ils peuvent donc avancer en accroupissant leur hitbox, ce qui leur permet de rester assez invulnérable à certaines hauteurs d'attaque sautée, d'avoir accès directement à leur coup baissé, mais aussi et surtout, et ça c'est la grosse innovation pour ce qu'on appelle les personnages à charge, puisque je vous rappelle que Terry Bogard, son légendaire Rising Tackle, qui est son coup invincible, se fait avec la manipulation d'une charge vers le bas, va pouvoir garder un jeu offensif, il va pouvoir avancer tout en préservant sa charge, puisqu'il pourra avancer tout en restant accroupi. Ce qu'un personnage comme Guile dans Street Fighter 2 ne pouvait pas faire, c'est-à-dire que Guile, dès qu'il marche vers vous, on sait très bien qu'il ne charge pas.
Donc il a plus d'options offensives pendant un tout petit moment.
Défensive,
ouais. C'est pas qu'il en a plus, c'est qu'il y en a certaines à laquelle il n'a plus accès.
Voilà, c'est ça. La possibilité de marcher accroupi va permettre à ces personnages dits à charge de garder leur panel défensif, parce que généralement c'est des coups qui servent plus à l'aide pour la défense. On va parler d'un des nouveaux personnages qui est apparu, qui l'orne un petit peu du côté de Gaël justement pour certains de ses coups. Et on va voir que ça aussi, ça va dynamiser la façon de jouer, puisque ce qu'aujourd'hui les joueurs appellent les footsies, c'est-à-dire la manière de gérer la marche avant et arrière pour punir certains coups dans le vent, etc., va gagner une dimension supplémentaire sur Fatal Fury 2, puisque là, en marchant accroupi, on ne marche pas à la même vitesse, on ne s'approche pas à la même vitesse, et on n'a pas la même hitbox. Et bien entendu, on a accès à certains coups chargés, donc comme je vous l'ai dit, chargés vers le bas. Ça, c'est une grosse innovation de Fatal Fury 2 qui, malheureusement, va disparaître avec le temps, puisque elle ne sera pas maintenue.
Je me souviens pas l'avoir vu ailleurs que dans Fatal Fury.
Si, dans les
2,
premiers coffres.
Dans les premiers coffres, les personnages Fatal Fury avaient
possibilité. Je savais même pas.
Et c'est seulement les personnages
Fatal Fury.
Seulement les personnages Fatal Fury pouvaient faire ça dans le coffre.
Exactement.
Dans les premiers coffres.
Ouais.
D'accord.
Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant qui démarquait le jeu de Street Fighter 2 pour l'époque. On avait parlé dans Fatal.
Juste, on n'a pas précisé. Oui. On l'a sous-entendu, mais on l'a pas dit. Il n'y a pas de dash vers l'avant.
Oui, bien sûr.
Il n'y a que le backdash.
Il n'y a pas de dash en avant.
D'accord.
Autre chose qui le démarquait de Fatal Fury 2 et qui est repris directement de Fatal Fury 1, c'est ce qu'on appelait les guards attaques. C'est-à-dire que, en fait, une fois qu'on s'est mis en position de garde, en faisant avant plus un coup, on avait accès à un nouveau coup pas spécial, enfin un nouveau coup normal, qui avait des propriétés spécifiques, notamment l'invincibilité sur la partie haute du corps. Ces coups-là sont maintenus dans Fatal Fury 2 et sont une marque de fabrique, en fait une marque du gameplay de la série Fatal Fury, qui restera dans les Fatal Fury jusqu'à Reload 2 et Garou, où leur utilisation se fera de manière différente.
Mais ils étaient toujours là dans ils Garou aussi, là, quand même.
Mais qui s'activaient, en fait, dans Fatal Fury, dans Reload 2 et Garou, en fait, ils s'activaient directement indépendamment de la garde. C'est-à-dire qu'on pouvait les faire avec une manip, spécifique.
D'accord.
Donc, jusqu'à cela, dans tous les Fatal Fury, il y aura toujours cette guard attack, qui sera la marque de cette série et qui permet, en fait, en plus de ce qu'on appelle les reversals, c'est-à-dire de pouvoir sortir un coup spécial dès lors que l'on se libère du coup, on avait accès à certains coups normaux qui sortaient dans ces conditions-là et qui donnaient une nouvelle, manière de se défendre, en fait, de contre-attaquer plutôt par rapport à Street Fighter 2 et aux autres jeux
qui étaient faits à l'époque. Éviter les coinçages.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais un petit peu technique, mais
vas-y. Hein,
sur un pressing, par exemple, qui vous laisserait en négatif, par exemple, où vous perdez l'avantage, mais que le coup de la coup suivant de l'adversaire n'est pas suffisamment rapide pour faire combo. Hein, je donne cet exemple-là. Si cette attaque est haute, vous avez la possibilité de profiter de ce petit trou en fait dans son pressing pour le contrer.
D'accord.
Et donc obliger l'adversaire justement à varier ses pressings, même s'il est en position d'avantage. Et ça, c'était une des forces de Fatal Fury, donc ça donnait un jeu plus varié, un jeu de mind game, de mix-up plus offensif. Parce que généralement, l'attaque vers le bas, peut-être ne sera pas aussi rapide que celle vers le haut, et du coup, ça donnera peut-être un trou à l'adversaire pour que lui reprenne le dessus. Et là, bah, ça donne une espèce de mind game. Est-ce qu'il va faire sa guard attaque? Est-ce qu'il la fera pas? S'il la fait, je le frappe en bas, mais s'il la fait pas, je continue à taper en haut, etc., etc. Et donc, l'adversaire aussi, de jouer là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'il attend la guard attaque? Est-ce qu'il attend pas? S'il l'attend, il va peut-être s'arrêter, j'en profite pour le choper, etc., etc. Et ça, c'était une des grosses forces du jeu, parce que, bah, on n'avait pas ce genre de possibilité, ce genre de choix dans un jeu comme Street Fighter 2.
Ouais, en fait, ça varié, en fait, tout ce que vous me dites là depuis tout à l'heure, en fait, ça varie énormément le gameplay par rapport à un Street 2 qui a été en fait surdosé, beaucoup joué, où les gens ont fini par apprendre très rapidement tout ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, et là, en fait, on rajoute une couche
C'est-à-dire que là,
qui
on
a varié énormément.
On est à une époque, en fait, si tu veux, où les joueurs qui sont en train, alors là, le jeu auquel on joue à ce moment-là, on le disait tout à l'heure, est l'hyper fighting de Street Fighter 2, là, les joueurs, ils sont plus à un moment donné à se poser quel combo ils vont faire. On est vraiment là à un moment où le combo devient roi, alors que dans Fatal Fury 2 on leur propose en fait une toute autre approche, en fait, de, et on va revenir sur cette histoire de combo, parce que le propre de Fatal Fury 2 justement n'est pas du tout le combo, mais on a vraiment un jeu qui est particulièrement riche en mind game. Frionel vient de l'exprimer ici. On va voir qu'il y a encore d'autres choses qui n'ont pas été dites. Ce jeu-là est d'une richesse absolument incroyable. C'est-à-dire que même si vous avez l'habitude de bien jouer à ce jeu et que vous le reprenez des années après, il y a encore des gens qui vont vous trouver des trucs, parce que il y a tellement de possibilités de réflexion vis-à-vis de chacune des actions qui vont être portées qu'il n'y a presque pas de limite dans les choix qui vont être proposés, alors qu'en soi les options qui sont citées ici, voilà, c'est des choses que, en plus, on a déjà après retrouvé dans d'autres jeux, on l'a dit ou pas, ou en fonction de la manière dont ça a été fait. Mais là, se condenser de toutes ces choses là à cette époque là puisque je le rappelle, on est en 92, c'est tout simplement du jamais vu.
D'accord. Donc, alors, on continue avec les innovations de gameplay pour Fatal Fury 2. Mm-hmm. Donc, on a parlé donc de la guard attack, qui n'en est pas vraiment une, mais qui quand même est un élément de démarcation par rapport à ce qui se faisait par la concurrence. Autre chose donc qui revient directement de Fatal Fury 1, c'est la gestion des deux plans.
Ah, t'as alors,
ah. Donc c'est mieux là.
C'est mieux, merci.
Oui. Donc la gestion des deux plans, qui donc était assez anecdotique dans Fatal Fury 1 et qui deviendra un pilier du gameplay de Fatal Fury 2, puisque on va donner la possibilité au joueur de choisir le plan dans lequel il veut jouer. Donc on peut vous partir voguer d'un plan à l'autre en utilisant une combinaison de boutons qui était A plus B à l'époque. Ça permettait en fait d'aller directement sur l'autre plan. Une fois que les deux joueurs sont sur des plans différents, les commandes se transforment. Par exemple, on ne peut plus sauter sur l'adversaire ou...
Oui, ce qui paraît logique.
Hein, en fait, vu qu'il est sur l'autre plan, si on maintient haut, on fait une espèce de roulé-boulé qui nous emmène de l'autre côté. On le suit. Et pareil, s'il va sur le plan vers le bas, on peut le resuivre vers le bas. On avait aussi la possibilité de l'attaquer sur l'autre plan en utilisant justement la technique de changement de plan. En fait, quand on faisait la technique de changement de plan, il faisait une attaque sautée
en même temps
et qui passait dans l'autre plan.
Et pour le coup, on se rapproche de ce qu'on voyait dans le premier Fatal Fury au moment du changement de plan. Exactement. Aussi. C'est la même attaque.
En fait, c'est cette attaque-là qui dans Fatal Fury ne se faisait pas manuellement puisqu'on devait suivre l'ordinateur qui lui choisissait le plan dans lequel il désirait nous affronter. Donc là, on a cette attaque-là qui permet d'aller d'un plan à l'autre, hein, qui donne en plus lieu à une animation différente si on va de l'avant à l'arrière que de l'arrière à l'avant. Et ce qui permettait aussi, il faut le souligner, hein, au niveau de travail de l'animation, bah, les personnages avaient donc en plus d'une stance front, c'est-à-dire en face à face, avait une stance de dos et une stance de corps. Quoi,
oui, bien sûr, parce qu'ils se regardaient.
Exactement.
On les voyait ou de face ou de dos en fonction de quel plan ils regardaient.
Exactement. Et ça, c'était intéressant au niveau de l'animation, puisque ça permettait en fait de voir ces personnages sous de nouveaux angles.
Là où
Street Fighter 2, on les voyait que de devant et de machin. Autre élément, c'est qu'il était possible aussi d'envoyer son adversaire sur l'autre plan avec ce qu'on appelle une body blow attaque, donc qui se fait avec la C plus D. Donc c'est une espèce de. Donc en fait il y avait deux niveaux de coups, donc les faibles et les forts, mais il y avait une espèce de troisième niveau, une grosse attaque qui fait plus de dégâts et qui était possible donc en l'air et au sol. En l'air ça donnait un gros coup, un coup plus puissant, et au sol ça donnait un coup qui envoyait l'adversaire dans l'autre plan.
Alors c'était point pied en fonction du personnage parce que là c'était caractère spécifique.
Donc voilà, le coup en fait qu'il donnait était soit un point, soit un pied, en fait ça faisait un gros coup.
Ouais.
Et ce concept de body blow attaque va être repris par la suite dans la série des King of Fighters, mais aussi dans une des manières de gérer le gameplay des prochains Fatal Fury dont on parlera dans un prochain podcast.
Ouais.
Donc cette gestion des deux plans va permettre plusieurs choses. Déjà, elle va permettre une gestion de l'espace nouvelle. C'est-à-dire que là où dans Street Fighter 2 on jouait sur un plan en deux dimensions, tu m'avances, tu avances, tu sautes, si je t'envoie un projectile, je te mets un bas gros point et haut un dragon et on tombe. Là, si on n'arrivait pas à gérer le combat en rapprochement avant-arrière-saut, on pouvait toujours chercher une nouvelle solution dans l'autre plan. Ça permettait aussi de s'enfuir, de jouer en fait le time over, hein, qui est donc, je vous rappelle, un des éléments du gameplay. Il n'y a aucune honte à jouer le time over, hein, je vous rappelle. Hein,
parce que, j'aime bien le sourire qu'il a.
Parce que ça,
j'aime beaucoup le sourire qu'il a.
C'est quelque chose qui me rend.
C'est une technique de lâche. Non, tout ce qui fait partie du jeu fait partie du jeu.
Exactement.
Exactement.
Exactement. Ouais. Tous les moyens sont bons pour gagner. Donc, ça va donner une nouvelle possibilité. Alors, cette option-là ne sera pas si bien accueilli pour tout le monde.
Ouais.
Parce que autant ça donne une profondeur de jeu supplémentaire, autant ça pouvait casser le schéma classique auquel les joueurs s'étaient habitués avec Street Fighter 2. Puisque
c'est-à-dire que hormis Fatal Fury 2, il n'y a aucun autre jeu de l'époque, aucun, qui propose ça.
Exactement. Donc autant les premiers standards et les premières bases de gameplay des jeux de combat commençaient à s'instaurer, commençaient à s'officialiser, autant Fatal Fury 2, en proposant ça, mais a carrément mis une gifle à ça. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, déjà, en un plan, je vous propose un jeu plus riche.
Oui, déjà,
En termes de déplacement, de contre, de défense, etc. Mais en plus, je vous propose une dimension de jeu supplémentaire pour donner encore plus de piment, plus de pêche et plus de dynamisme aux affrontements. Et ça a eu en fait un effet. Donc autant les autres options ont été très très bien accueillies, autant celle-là a été un peu créé un petit clan anti Fatal Fury où justement certains joueurs n'appréciaient pas cette gestion-là, ça devenait trop compliqué. Ça devenait trop compliqué. Rajouter une dimension de plus devenait trop compliqué pour certains. Et c'est ce qui a fait un petit peu les écoles Fatal Fury et Street Fighter, puisque finalement on s'est retrouvé à ceux qui étaient pro la multiplication des options et la multiplication des possibilités avec ce plan supplémentaire, et ceux qui étaient contre et qui préféraient vraiment un jeu simple et plus structuré où ils maîtrisaient mieux ce qui se passait.
C'est surtout avec Street Fighter plus facile à aborder parce qu'il reste sur une base constante qu'on retrouvera par la suite.
C'est tout ce qu'on racontait justement.
Juste pour nuancer, il y avait aussi, et cette catégorie de joueurs particulièrement au Japon se développait de plus en plus, il y avait tous ceux qui donc cherchaient les plus gros combos. Et à l'époque, si on met de côté un petit peu ce que nous a proposé par la suite World Heroes, à ce moment-là, il y a vraiment que Street Fighter 2 qui proposait une telle densité de possibilités d'enchaînement de coups. Et il y avait des choses, on parlait de Liber Fighting tout à l'heure, il y avait des joueurs japonais qui faisaient des trucs absolument extraordinaires à l'époque. Nous, à l'époque, on a découvert le Liber Fighting en 93, c'était particulièrement ou arcade ou Super NES Mega Drive. Il y avait aucun joueur français à l'époque qui était capable de faire ce qu'on pouvait voir au Japon. On n'était pas du tout éduqués dans les mêmes termes.
Et c'est tout à fait, c'est normal puisque de toute manière, les conditions de jeu au Japon poussaient à la victoire.
Bien sûr.
Et tous les moyens de gagner étaient bons et on a vite compris dans Street Fighter 2 que les combos justement, grâce au principe système de cancel qui, on le rappelle, n'a pas été voulu au départ par les développeurs, le système de cancel permettait de faire des gros enchaînements qui étaient fatal.
Voilà, ce qu'on a découvert par la suite avec le damage reduce qui n'existait pas, faut le rappeler, à l'époque de Street 2, c'est-à-dire qu'avec un Guile ou un Ken, on met KO un adversaire en l'espace de quelques coups. Enfin, c'est
voilà. Non, mais c'est au-delà de la recherche du combo, c'est la recherche de l'efficacité.
Tout à fait.
Ce n'est pas spécifique au Japon.
La maximisation. En Europe aussi.
Et donc justement, je rebondis là-dessus pour dire que Fatal Fury 2 a volontairement pas choisi de reprendre ce système de combo et de cancel de Street Fighter 2, donc il est possible de canceller ses attaques, mais en fait le start-up des coups spéciaux faisait que c'était très difficile de faire de vrais combos.
Tu pouvais pas faire de vrais combos dans Fatal Fury 2.
Bien sûr, si, il y avait des combos, c'est-à-dire que les lights s'enchaînaient, tu pouvais faire une attaque sautée, une attaque au sol et finir avec un autre coup. Mais si tu veux, la manière
dépasser trois coups enchaînés sur Fatal Fury 2, faut le vouloir quand même.
La manière dont la gestion des hitstun a été faite, la manière et les start-up. En fait, les frames cancelables des coups et les start-up des coups spéciaux,
je ne comprends plus rien.
Qu'il était difficile d'avoir de vrais combos, comme on pouvait voir dans Street Fighter 2. Mais ils ont quand même proposé une mécanique de gameplay dont on va parler, hein, qui a fait son apparition sur Art of Fighting 1, je vous le rappelle, et qui s'est démocratisé dans Fatal Fury 2. C'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, on appelle ça les Fury. Donc, c'est les Desperation Move, comme on l'appelle chez SNK. Donc, Desperation Move, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de coup ultime de la mort qui tue, le coup spécial craqué, qui déraille la barre de vie, hein, mais avec qui fait de gros dégâts, et qui n'est accessible que lorsqu'on est aux frontières de la mort. En fait, comme dans Street Fighter 2, lorsqu'on approche du KO, la barre de vie commence à clignoter.
Oui.
Et en fait, à ce moment-là, tous les personnages du cast, tous les personnages jouables du cast, ont accès à un nouveau coup spécial gratuit, qui se fait avec une manipulation complètement abracadabrante. Ouais, c'était une manipulation qui n'était
écrite, dure à sortir.
Et une manipulation qui n'était écrite nulle part.
Comme d'habitude à l'époque.
Comme dans Street, comme dans Art of Fighting.
Qu'il fallait trouver soi-même et qui occasionnait de gros dégâts. Et c'est là qu'on va voir. Oui, donc c'est apparu.
Dégâts, c'est rien de le dire.
Ouais. Et puis c'était impressionnant, vraiment impressionnant. Les mises en scène de ces Fury, Desperation Move, on les appelle Fury en France, hein, peut-être parce qu'elles sont apparues avec Fatal Fury de manière plus démocratisée, hein, c'est sûrement ça, je pense. Ces Desperation Move étaient vraiment impressionnantes. C'était des mises en scène et des attaques époustouflantes pour l'époque. La première fois qu'on voit un Power Gazer de Terry Bogard, c'était juste hallucinant.
C'est là qu'en plus, il y avait certains joueurs qui l'ont sorti, ils savaient absolument pas comment ils avaient fait.
Oh, j'ai fait comment?
Voilà, après, pour le retrouver.
Puis c'est pareil que pour d'autres jeux de l'époque, tu vois ça en photo dans un magazine, le jeu, t'as envie d'y jouer, hein.
Oui, bien sûr.
Franchement, tu dis, mais j'ai envie de sortir ça, j'ai envie de le faire, ce gros coup.
On parlait des attaques de Ryo dans Art of Fighting, c'est exactement la même chose là. Puis nous, en plus, ces jeux-là, au départ, on ne les voyait que dans les magazines.
Dans les magazines en photo. Et, ce que je voulais dire, donc, qu'est-ce qui était important avec ça? C'est quelque chose qui va revenir après dans l'intégralité des jeux de combat, à tort ou à raison. C'est ce qu'on appelle des mécanismes de comeback. Donc, qu'est-ce qu'un mécanisme de comeback? C'est quelque chose qui va permettre à un joueur qui a mal entamé son match de rester quand même dans le match car il a une possibilité de revenir. Donc, elle se manifeste dans Fatal Fury 2 justement par le biais de ces Desperation Moves. Pourquoi? Parce que, en fait, dans un jeu sans mécanisme de comeback, si vous avez mal engagé votre match et que vous êtes en position de défaite au time over, l'adversaire en face devient quasiment invincible s'il sait jouer, s'il impose un style défensif radical. Et en fait, des fois, c'est juste, même le temps qui reste, c'est juste impossible de revenir. Et donc, on se retrouvait des fois dans des schémas de jeu où le match était fini avant d'être totalement terminé.
Parce que t'avais peut-être même pas le temps de faire assez de dégâts, vu qu'il n'y a pas de combo, vu qu'il n'y a pas vraiment de combo, tu peux pas faire un gros combo pour revenir en te disant, je vais faire comme ça, quoi.
Et les mécanismes de retour, de comeback, dans un jeu de combat, ça permet, en fait, au match de rester dynamique et incertain jusqu'au dernier pixel de vie. Donc ça c'était une grosse nouveauté pour l'époque, puisque on ne lâchait jamais l'affaire, et même que certains persos, parce qu'ils avaient des furies, des smash moves plus puissantes que d'autres, en fait avaient un gameplay qui changeait totalement dès lors qu'ils accédaient à leur raid.
Par exemple, Terry Bogard, tu sautes plus dessus.
Voilà, par exemple, Terry Bogard ne pouvait plus sauter dessus. Joe Diashi devenait un mur infranchissable parce qu'il pouvait spammer en fait ses furies jusqu'à la mort.
Ah,
et,
d'accord.
Et ça a donné lieu à
de nouvelles. Ah oui, parce qu'il a oublié de dire, mais la furie, gratuite, tu l'as fait autant que tu veux.
Ah bon dans la ah oui, elle est gratuite. Non, quand tu te dis, elle est gratuite, elle est gratuite.
En fait, non, c'est un coup spécial. C'est pour ça que j'appelais ça un coup spécial.
Ah d'accord. C'est gratos.
C'est un nouveau coup spécial.
C'est comme dans les premiers coffres. Rappelle-toi, quand t'as ta barre qui clignote et qui est rouge, ton coup, ta furie, tu l'as fait autant de fois que tu veux.
On est d'accord qu'on est en 92. Là, il n'y a pas de barre de super, il y a pas de, c'est pas un super coup, c'est vraiment
c'est un coup spécial.
On parlait d'Art of Fighting ou de Street Fighter premier du nom, c'est exactement ça.
C'est d'accord. Un coup spécial qui est accessible. C'est un nouveau coup spécial dans ta commande liste qui ne devient accessible que lorsque tu atteins ta vie rouge. Et ce mécanisme de gameplay, c'est ce qui va, c'est ce qui va être le signe du succès de Fatal Fury 2.
Ah ouais.
Puisque ça va être le premier jeu qui va donner des affrontements tendus. En fait, la tension des affrontements sur Fatal Fury 2 sera inégalée à l'époque, puisque jusqu'au bout, on attend ce moment-là où on va accéder à la furie et tout peut se passer.
Où le mec va faire une erreur en face, tu vas lui balancer et tu vas retourner le truc.
Et ce qui était génial, c'est de retourner la situation pour redonner à l'adversaire
lui-même son propre
outil de retournement, et ça donnait lieu à des matchs juste hallucinants. Et des fois on a vu naître des techniques, mais bon, déjà il n'y avait pas de gros combos, mais il y avait possibilité en fait de faire en sorte que l'adversaire ne passe jamais par cette zone rouge, puisqu'on s'arrangeait pour lui occasionner pile poil les dégâts qui le tueront, en fait, qui lui enlèveront exactement l'énergie de sa zone rouge.
Ouais.
Ou encore de techniques encore plus vicieuses qui consistaient à arracher la vie à son adversaire et le laisser pile poil avant sa zone rouge et jouer le time over à ce moment-là en jouant sur les deux plans, c'est-à-dire pour ne pas lui permettre d'accéder à sa furie. Alors attention, il faut aussi savoir quelque chose d'assez important, ce n'est pas le cas pour tous les membres du cast, mais les furies, aussi dévastatrices soient-elles, ne devaient pas se faire n'importe comment, être faites à la légère, puisqu'elles avaient des temps morts. Et c'est comme tout coup spécial, il y avait quand même un risque et un reward, c'est-à-dire que si tu faisais ta furie au mauvais moment, et ben tu te faisais, c'était une prise de risque quand même. Pas pour tout le monde, on le verra par la suite, mais tu avais une prise de risque. Et ça aussi, c'était assez intéressant, puisque justement la notion de risque et reward était très 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 importante, puisque tu prenais un gros risque, mais qui pouvait te payer très très cher. Et pareil, l'adversaire qui n'a pas la furie justement, donc devait réfléchir à deux fois sa manière d'attaquer, puisque effectivement, en prenant un risque démesuré, même s'il est en gestion, donc il a l'avantage à la vie, pouvait voir tout son match se retourner contre lui.
Et puis on a vu des matchs entiers où tu as des personnages qui commençaient à mal jouer. Tu te dis tiens, mais c'est bizarre en fait sur les derniers cartes, tout simplement parce que la personne sait qu'à un certain
nombre
de temps, voilà, et que
sa gestion de risque était complètement démesurée, puisqu'il savait que quoi qu'il arrive, en fait il joue très risqué parce qu'il sait que de toute façon, même si tu le punis, en fait tu ne feras que l'emmener dans une situation où il sera encore plus fort. Et ça c'était mortel, c'était vraiment mortel.
Moi, je vais juste rajouter un truc, c'est qu'on l'avait déjà dit avant pour Street Fighter, mais à l'époque du début du jeu de baston, il y avait des cages entre les joueurs qui connaissaient les coups spéciaux et ceux qui ne les connaissaient pas. Et là, on arrive encore à un degré au-dessus où il y a les joueurs qui connaissent les furies, mais aussi surtout qui arrivent à les faire, parce qu'elles étaient quand même très compliquées, et les placer dans des combats, ça demandait d'avoir déjà un certain niveau. Et donc au final, c'était vraiment les joueurs qui étaient vraiment passionnés par le jeu qui arrivaient à placer ce genre d'attaque et à vraiment retourner les combats.
C'est contrairement à Mortal Kombat dont on a déjà parlé, où là il y avait le côté, t'as vu, je t'ai terminé avec
la fatality.
Une fatality, etc. Ça n'avait aucun impact sur le jeu en lui-même. Là, la personne qui maîtrisait et qui savait placer son coup de désespéré, c'était le roi.
Non, et puis en plus ça porte très bien le nom, le Desperation Move, c'est vraiment le truc mon désespoir dans ta face, quoi.
En fait, c'était à l'époque, c'était la grande époque des shonen où le héros, une fois qu'il a été quasi vaincu et aux frontières de la mort, se relève et trouve une force inespérée
au fond de son âme.
il atteint le septième sens.
Voilà, et tu brûles son cosmos. Il brûle son cosmos.
Des fois, c'est juste. Ah oui, je viens de me souvenir que j'avais une super technique.
Faut pas que t'es pas réveillé, ça peut. Arriver. Ah oui, c'est vrai, j'ai une super.
Une révélation de son grand maître décédé qui vient le voir pendant qu'il est KO.
Ça peut arriver en arcade, hein. Tu as ton maître à toi, il arrive et ça y est, il te révèle la technique.
Et tu sais que tu peux faire un adoken, là. Ah, merci.
D'ailleurs, comme l'a dit Walcook, moi je me souviens, j'étais très très jeune à l'époque, mais je faisais partie de cette élite qui maîtrisait les furies. Et je savais direct que quand j'arrivais dans une salle d'arcade, ou que je jouais sur console chez des potes ou quoi que ce soit, je savais très bien que dès que je sortirais ma première Fury, il y aura une aura de respect qui allait se créer autour et qui montrera direct que je ne fais pas partie du même univers que
je suis le boss,
les mecs. Je connais les Fury. et on en reparlera plus tard, mais lors de la sortie de King of Fighters, c'est ce qui a permis au départ de faire de creuser un écart entre les joueurs de Fatal Fury et les autres.
D'accord.
Et donc ça, c'était aussi assez important, c'est-à-dire que c'était un nouvel élément de démarcation entre les joueurs qui maîtrisent le jeu ou pas, et plus on va avancer dans l'histoire des jeux de combat,
oui.
Et plus c'est ce genre de choses vont continuer à se démocratiser.
Non, on revient à ce qu'on disait lors du dernier podcast. De toute façon, on était vraiment à un moment, à une époque où malheureusement ou heureusement, enfin, en tout cas, il y avait une logique. Le grand public se désintéresse de cette niche parce que il s'y retrouve pas, en fait. Ça devient trop compliqué.
Il se retrouvera de moins en moins.
Oui, bien sûr.
En fait, encore à l'époque, les jeux étaient graphiquement, visuellement, et même en termes de sensations, étaient toujours fun, étaient toujours attractifs. Donc
et impressionnant, surtout impressionnant, par rapport à ce qu'on avait chez soi.
Impressionnant techniquement. Et du coup, il restait attrayant pour le grand public, mais petit à petit, ils vont s'en éloigner parce que ils vont comprendre que en termes de fun, de visuel, etc., la technologie va évoluer et les développeurs vont choisir de garder leur public le plus assidu et le plus fidèle, qui lui aura poussé le gameplay jusqu'à ses derniers retranchements.
Ouais.
Et c'est ce que c'est une des positions que va prendre SNK en rendant ses jeux de plus en plus riches.
D'accord.
Donc voilà pour le gameplay. Je pense qu'on a fait le tour.
Ouais.
Moi j'ai juste une petite question rapide. C'est donc tu nous as parlé du changement de plan et tu nous as parlé du body blow attack. Et ce sont des attaques qui se font en appuyant sur juste des boutons en même temps.
Oui.
Est-ce que c'est pas la première fois où on voit apparaître ce genre de combinaison de coups qui permettent de combinaison qui permettent juste en appuyant sur des boutons d'avoir accès à des coups avancés?
C'est tout à fait vrai en fait. Pour pallier au manque de boutons de la configuration Neo Geo, qui de toute façon ils l'ont poussé au maximum puisqu'on pouvait pas avoir plus de 4 boutons.
Oui.
Ils ont trouvé un moyen très astucieux de rajouter de nouvelles possibilités en proposant des combinaisons de boutons. Et oui, tu fais bien de le remarquer.
D'une manière un peu bâtarde, il y avait déjà ça dans Art of Fighting, mais c'était pas exactement similaire. Voilà.
Oui, mais donc ils ont trouvé un moyen de contourner le manque de boutons en proposant des combinaisons de boutons, et ça, de toute façon, on le verra par la suite, ça se démocratisera dans tous les jeux.
Oui, ceci dit,
même ceux qui ont 6 boutons.
Je précise que cette école-là, elle vient du beat'em all. Hein, quand tu prends ne serait-ce qu'un Final Fight où tu accèdes avec les deux boutons à la fois,
de toute façon, c'est quelque chose qui existe, un mécanisme de jeu vidéo qui existait déjà auparavant.
Oui, mais cette intégration dans le fait d'avoir accès à des coups qui sont pas vraiment des coups spéciaux, mais des coups avancés quand même. C'est la première fois qu'on la voit dans un jeu de combat.
En l'état, oui.
D'accord. Alors, j'ai peut-être une question qui va paraître un peu bête, en fait, mais ayant relancé, évidemment, Fatal Fury 2 pour l'occasion, pour essayer d'y jouer, pour essayer de comprendre, j'ai vraiment du mal, en fait, à aborder, peut-être probablement parce que même aujourd'hui, ça reste en fait un truc qu'on retrouve pas. Et la série Real Boot, j'ai l'impression qu'elle a été, enfin, la série Fatal Fury, globalement, j'ai l'impression qu'elle a été quand même moins connue que les plus grandes séries, notamment de KOF, de Street ou autre. J'arrive pas à comprendre comment en fait on joue vraiment du deuxième plan en termes de changement et de dynamique. C'est vraiment un truc qui doit se...
Il y a un truc que tu dis, tu parles de la popularité de la série. Il faut savoir qu'on commence à arriver à une époque où il y a beaucoup de gens qui connaissent Fatal Fury mais qui n'y jouent pas. Et c'est là où on arrive.
Fighting,
voilà, on arrive à l'époque où il y a beaucoup de gens qui connaissent les jeux, qui savent ce que c'est, mais qui n'y jouent pas vraiment. Et donc, il commence à se créer un décalage entre le public des joueurs et le public des connaisseurs.
Les enthousiastes. Ouais.
Ça, c'était lié. Ça souligne en fait la force visuelle et du caractère design de ces jeux-là, en fait, qui va leur donner une vie en dehors du jeu.
Oui.
Et on parlera un peu du cast, on va en parler un petit peu. C'est ce qui va faire la particularité de l'univers SNK et qu'on le voit encore aujourd'hui. L'identité visuelle est tellement forte et tellement travaillée et recherchée que y aura énormément de fans des personnages, des histoires, des univers des jeux SNK, sans pour autant s'intéresser réellement au jeu et y jouer sérieusement. Mmh. Et c'est ce qui va donner lieu à énormément de produits dérivés, puisque Fatal Fury va être décliné en film d'animation.
La casquette de Terry Bogard.
Et énormément de choses qui vont en découler. Donc pour répondre à ta question sur la gestion des plans,
rajouter le fait que ce soit chez SNK, chez Capcom, d'ailleurs il y a eu beaucoup de dramas qui en général étaient plutôt liés au monde de l'animation voire du manga, mais on n'a jamais eu véritablement de drama comme on avait ici sur les jeux RPG, mais là l'univers des jeux de combat a amené ça. Il y avait des CD entiers d'histoires où il y avait parfois même les doubleurs officiels
qui racontait les histoires de
Terry, de Ryo, de Ryu, de Ken.
D'accord. Les jeunes cos, les dramas, ça vient de la radio, à la base.
Oui, tu peux peut-être, oui, ouais, juste voilà. Te préciser.
Parce que j'ai une génération, je pense qu'aujourd'hui, ne sait pas trop ce que c'est.
En fait, les dramas, c'est rentré dans le détail. En fait, on l'entendait particulièrement au Japon, mais c'est des choses qui existaient chez nous aussi en France dans le passé, qu'on a beaucoup vu aux États-Unis. En fait, c'est des gens qui, autour d'un micro, vont raconter l'histoire en la jouant, comme s'ils étaient au cinéma, sauf qu'on les bruitages vont être ajoutés, etc. Là, le drama sur un CD, c'est la même chose, sauf que ça a réellement été enregistré.
C'est de la fiction audio.
Apparemment, mais c'est de la fiction, voilà, audio. D'accord. Donc tout est fait pour que la personne qui entend ait tous les éléments, même visuels, qui soient racontés.
D'accord. Bon alors, est-ce que Frio peut répondre à ma question maintenant?
Donc pour répondre à ta question de la gestion des plans, je vais te la faire de manière assez... Je vais te faire une illustration de combat.
Et c'est ce que j'aimerais bien qu'on essaye d'expliquer. En fait, je pense que c'est un peu flou quand tu l'expliques.
Illustration audio, j'espère.
Donc en fait, tout simplement, tu es face à un personnage. On les a pas encore présentés, donc je vais pas donner de nom ni rien, je vais juste donner un archétype de gameplay. Un personnage qui envoie des projectiles et qui a un Dragon Punch. Imaginons un Ryu-like. Il est en face de toi, il va commencer à poser son jeu, donc il va faire son ado trap, il va t'envoyer un projectile et il attend une réaction de ta part. Dans un jeu classique, tu peux avancer, mettre ta garde, sauter sur place pour que le projectile reste à l'écran et qu'il puisse pas en envoyer un le temps qu'il disparaisse. Mmh. Tu peux te protéger, à ce moment-là, tu donnes la possibilité d'en remettre un deuxième. Tu peux sauter dessus et t'exposer à un anti-air, etc. Donc ça, c'est les choix que tu as dans un jeu classique. Dans un jeu de combat avec deux plans, comme Fatal Fury, tu auras la possibilité d'aller sur l'autre plan et à ce moment-là, tu fais complètement whiffer son projectile et tu lui reviens dessus par une attaque sautée d'un plan à l'autre qui va te rapprocher de lui beaucoup plus rapidement.
Parce que le plan, en fait, tu ne montais pas en fait à la verticale dans le plan suivant.
Alors,
tu montais en diagonale un petit peu, ce qui fait que tu avançais un petit peu dans
ça dépend de ta direction.
En fait, ça dépend de comment. En fait, au moment où tu fais A plus B, tu peux mettre une direction et aller vraiment en avant, loin, en arrière ou sur place.
Ah ouais, carrément. Donc
particulièrement quand tu reviens sur le plan d'attaque, en fait, c'est là où tu as le plus de souplesse.
D'accord. Donc ça te donnait en fait une nouvelle possibilité. Et là-dessus, l'adversaire en fait qui fait son ado trap devait prendre en compte cette possibilité-là.
Ouais.
Il pouvait par exemple te court-circuiter en anticipant ton déplacement et en allant avant toi à limite ou un peu après toi sur l'autre plan. C'est-à-dire qu'il abandonne son jeu de ado trap pour te courser directement sur l'autre plan.
Puis on peut peut-être préciser que dans Fatal Fury 2, les personnages à boule entre guillemets sont plus lents à sortir, enfin ont des projectiles qui sont plus lents à sortir qu'un Ryu par exemple qui a un jeu qui est vraiment lié à son Hadoken. Là, on se retrouve en fait avec des personnages que pas qu'on voit venir, faut pas exagérer non plus parce que le jeu est pas non plus lent, mais il est plus facile de contrer du coup un projectile dans Fatal Fury 2 avec toutes ces possibilités là.
Ouais, ce que tu veux dire, c'est que le temps de préparation de la boule est plus long.
Voilà, ouais, exactement. En fait, on était moins soumis au trap du fait déjà de ces possibilités-là et du fait de ce qu'on appelle le start-up, donc le temps d'activation du coup qui était un peu plus lent que dans un Street Fighter 2.
Sachant que par exemple, tu sautes sur le plan suivant pour éviter le trap, le mec essaie de te suivre, tu lui envoies le blow-up qui touche sur les deux plans, le mec ça va lui...
Non, en fait, le blow-up ne touche pas sur les deux plans. Le blow-up le renvoie
sur l'autre plan.
D'accord. Donc par exemple, si t'embêtes trop, tu l'envoies sur l'autre plan. Autre possibilité, alors elle devient intéressante, c'est que elle sera beaucoup plus développée par la suite, mais on pouvait déjà voir l'apparition de ça dans Fatal Fury 2, c'est que, quand tu ouvres la garde à un adversaire, il peut se protéger en haut ou en bas. Mm-hmm. On est d'accord, on a déjà vu les niveaux de coups qui sont les mêmes pour quasi-intégralité des jeux de combat existants. Mais on a aussi vu dans Street Fighter 2 qu'on pouvait faire ce qu'on appelle un cross-up ou un passage dans le dos, c'est-à-dire que on joue sur l'ambiguïté d'un coup où l'adversaire ne saura pas s'il doit se protéger à gauche ou à droite.
Ouais.
En passant sur un autre plan, on peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire faire un cross-up mais qui vient de l'autre plan. Et à ce moment-là, l'adversaire qui doit subir ne sait pas exactement où tu atterris. Est-ce que tu atterriras devant lui ou derrière lui?
Est-ce que tu choisis la direction? Et comme Tim DGC le disait, voilà. Comme tu choisis la direction et que c'est très souple, quand tu reviens en premier plan, c'était beaucoup plus dangereux.
Et que l'angle,
enfin, pas au premier plan, quand tu reviens vers l'adversaire.
En fait, l'ambiguïté, tu pouvais créer des situations ambiguës. Et ça rajoutait une nouvelle possibilité. Dans Fatal Fury 2, c'est pas ultra présent. C'est certains personnages qui sont plus forts que d'autres pour faire ça. Mais on verra par la suite, dans les jeux à plusieurs plans, que ça va devenir un des éléments cœur du gameplay et qui fera la richesse du jeu. Voilà, c'est pour répondre à ta question.
Je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup. J'espère que vous comprenez aussi.
Il y aura une interro écrite après.
Juste pour terminer là-dessus, tu disais, voilà, je suis déstabilisé, mais il faut savoir que la plupart des joueurs qui découvraient Fatal Fury 2 étaient déstabilisés. C'est-à-dire qu'au départ, un petit peu comme certaines nouvelles techniques, les gens l'utilisaient à tort et à travers. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de changements de plan qui étaient un petit peu faits au hasard ou etc. Et c'est un élément du gameplay que les gens, apprivoisaient au fur et à mesure et devenaient, en fait, ça devenait vraiment, une façon de jouer. Au sens propre du terme, qui n'était pas présente au départ. Il y avait beaucoup de, c'est comme quand les gens ont découvert le focus, entre guillemets, il y a des gens qui le faisaient parce que voilà, je peux me protéger d'un coup, j'appuie sur tous les coups, etc. Voilà, bon, j'ai fait un focus, etc. Après, il y a des gens qui se mettent à comprendre comment fonctionne le cancel, qui l'utilisent comme un élément d'attaque, etc.
Comme tous les éléments de gameplay.
C'est exactement ça, tout à fait.
Donc, on a fait le tour du gameplay, en gros, là?
Oui, dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes, ok. Donc, en gros, Fatal Fury a un peu inventé le backdash, le fait d'avancer en s'accroupissant.
Le backdash invulnérable.
Invulnérable, on veut dire, le vrai backdash, comme on le connaît aujourd'hui. Mais également, à démocratiser le changement de plan. Et on disait, les mécaniques de comeback. Exactement. C'est pas mal pour un seul jeu, quand même.
C'est pas mal.
Qui s'inspire de Street 2, quand même. Je comprends mieux ce que vous disiez par rapport à l'inspiration et l'éloignement en même temps.
Et n'oublie pas qu'il a posé les bases des jeux de combat de la plupart des jeux SNK par la suite.
Autre chose aussi, on a oublié, mais je sais pas trop dans le gameplay cœur du jeu, mais c'est fini les 2 versus 1. On ne peut plus affronter le CPU à 2. Là, quand l'adversaire arrive, il t'affronte directement.
Tu le précises, pour revenir là-dessus, c'est vrai que contrairement au premier Fatal Fury qui était vraiment tourné, entre guillemets, joueur unique vers le CPU, et puis bon, avec un pote, tu pouvais un peu t'amuser, etc. Là, au même titre que Street Fighter 2, Fatal Fury 2 est vraiment dédié, en fait, au 1 versus 1. Le but du jeu, c'est de montrer qui est le plus fort.
Et d'ailleurs, pour faire la transition, parce que ça concerne le gameplay et le jeu, il y a une des évolutions fondamentales, c'est le nombre de personnages.
Ah bah on est d'avance déjà bien.
Ah oui.
Alors,
transition parfaite.
Je crois savoir que entre Fatal Fury 1 et Fatal Fury 2, il y a forcément les grandes lignes qui reviennent. Autrement dit, on retrouve Terry, Andy, Joe.
Les personnages jouables de Fatal Fury 1, qui sont les emblèmes, qui sont devenus les emblèmes de la saga,
sont les héros.
Seront toujours jouables.
Oui.
Auxquels vont se rajouter 5 nouveaux.
On passe de 3 personnages en fait à 8 personnages jouables.
Il y aura 5 nouveaux personnages qui feront leur apparition.
Et 4 boss non jouables. Non jouables aussi, comme dans
Street Fighter 2, c'est pareil.
Dans les 4 boss.
C'est vachement amusant l'espèce de rapport et de différenciation.
Non, mais je répète, là, à cette époque-là, les 12 personnages étaient jouables dans l'écurie de Capcom.
Ah oui, c'est vrai.
Là, on est là-dessus.
Voilà, mais c'est pour dire que SNK a fait ce choix. Après Capcom sur Street Fighter 2, encore avec un temps de retard. C'est ça. Surtout qui
c'est ça qui d'accord.
Mais là où il y a une légère différence tout de même, il faut quand même le souligner, c'est qu'il n'y a pas de clone caractère. C'est-à-dire que les persos sont tous différents, designés de manière différente, ont un gameplay unique. Et alors que dans la plupart des productions que l'on a vu, dont on a déjà parlé, le clone caractère était quand même un élément assez différent.
On parlait de World Heroes l'autre fois avec
toujours le rival du héros.
Voilà, toujours. Donc là, sur Fatal Fury, ça a été une des forces du jeu jusqu'à un certain numéro où finalement ils ont craqué, ils ont quand même mis des clone characters, mais
ils avaient plus de place sur les cartouches, je peux les comprendre.
Donc il n'y avait pas de clone characters, donc c'est bien 8 personnages avec un gameplay spécifique. Alors parmi
je renuance juste en disant, on se rappelle que dans Street Fighter 2 premier du nom, Ryu et Ken, qui étaient donc les personnages du premier Street, étaient aussi le seul personnage qui permettait à deux joueurs de pouvoir s'affronter dans un match miroir.
C'est
l'équivalent. Après ces deux personnages bien sûr ont été gardés, et on se souvient que dans Super Street Fighter 2 on a évité un clone de Feilong avec l'arrivée de DJ, mais cette nuance est importante.
Donc, parlons un peu des personnages maintenant.
Donc parmi les 8 personnages jouables. Donc on a dit qu'on avait 3 têtes, 3 figures bien connues qui étaient Terry, Andy, Joe, qui reprenaient tous leurs coups spéciaux, qui avaient subi quelques...
Les manips ont un peu changé.
Quelques changements légèrement, pas beaucoup. La plupart des manips sont conservés.
J'ai dit un peu.
Alors, juste, tu peux peut-être préciser, parce que dans Fatal Fury, premier du nom, suivant quelle version on avait, les manips ne se faisaient pas de la même façon.
Bien sûr.
Donc là, tu peux peut-être préciser
ce que les manips de Fatal Fury 2, on reprend les manips de Fatal Fury 1, mais avec ce qu'on appelle une marge de manœuvre plus souple.
Oui.
C'est-à-dire que le jeu était moins exigeant que Fatal Fury 1 les inputs et la précision des manipulations, il faut le préciser.
Mais il restait très exigeant. Hein. Ouais, il est moins que le 1, mais ça reste du SNK.
Alors voilà, c'est-à-dire que pour les joueurs, et c'est dit sans humour, qui ont l'habitude de Street 4, on est vraiment dans un jeu qui est très rigoureux. Il est plus souple que Fatal Fury premier du nom, mais on fait pas n'importe quoi dans Fatal Fury.
Bien entendu. Et ils ont gardé, en fait, bien entendu, les manipulations sont toutes inspirées de Street Fighter 1, hein, c'est ce qui a posé vraiment les bases des manips, qu'on puisse faire, des associations qu'on puisse faire avec un joystick et des boutons, mais il y a eu certaines manips qui ont été inventées avec Fatal Fury 1, et que SNK va volontairement choisir de garder, dans le gameplay de Fatal Fury 2.
Éléments différenciants.
Ouais. Voilà.
D'accord.
Donc. Pour les personnages.
Donc pour les personnages qu'on va retrouver derrière, en fait, il y a des retours du premier, sauf que bon, les personnages qui n'étaient pas jouables dans le premier, enfin certains personnages pas jouables dans le premier vont devenir jouables. Du coup, dans le deuxième, l'arrivée de Big Bear notamment, qui est
Raiden.
Raiden.
Mais voilà. En fait, pour la petite histoire, c'est en fait Raiden.
À l'époque, il y avait un doute quand même.
Ah ouais,
C'était pas dit.
Mais en fait. C'est juste pour dire que dans l'histoire, Raiden, qui était un des larbins de Guise Howard et qui était le méchant de service, a choisi de se repentir via une nouvelle identité en enlevant son masque et en arborant une barbe qui fait que ça a un nouveau...
C'est un nouvel homme.
Et qui va se battre pour d'autres idéaux.
La justice et l'amour. Et peut-être, voilà, peut-être plus juste par rapport aux éléments manichéens qu'on peut peut-être avoir.
Voilà. Donc on aura donc le premier.
Voilà, Bibir qui est aussi du coup une référence plus ou moins avérée de Zangief. Hein.
Les standards de jeu de combat qui étaient posés par Street Fighter 2, qui ont été repris un peu par tout le monde, vont imposer certains archétypes de gameplay. Donc on aura toujours un chopper, un catcher, un gros lard. Et Big Bear était le gros lard. En fait, le gros lard aussi permettait.
C'est surtout dans ce cas-là le gros lard, parce qu'on va revenir sur le catcher
dans un autre personnage. Mais le gros lard, en fait, pourquoi il faut qu'il y ait un gros lard, c'est parce que c'était aussi une manière de démontrer pour les développeurs, en fait, les designers, etc. Ça leur permettait de s'exprimer sur un sprite plus gros et de montrer leur capacité à animer un sprite de plus en plus gros.
Ça fait aussi démotiver. Technique pour la console.
Exactement, de montrer un gros lard. Et croyez-moi, le Big Bear de l'époque, il était énorme. énorme.
Et c'est un personnage bien maîtrisé, enfin comme bien souvent d'ailleurs, il est sévère. Hein.
Il est sévère.
énormissime. C'est un des sprites les plus impressionnants.
Bah, d'ailleurs, si on ne maîtrise pas les plusieurs plans, il est vraiment très embêtant.
Ah, d'accord. Quoi d'autre comme perso?
Alors, on a l'arrivée de Jubei Yamada, qui est le judoka entre guillemets de service, et auquel justement je rajouterais encore un lien vis-à-vis de Zangief. C'est le personnage qui a quasiment autant de chops que Zangief dans Street Fighter 2.
En fait, donc là où on avait notre gros lard avec ses chops et on s'est dit c'est bon,
c'est Zangief.
Et ben non, SNK, et c'est là l'une des grosses particularités de SNK par rapport à Capcom dans l'absolu. Et Capcom a essayé après de s'aligner par la suite en proposant ce genre de personnage, mais en fait ils ont eu l'idée, ils se sont dit mais attends une seconde. Pourquoi le mec qui fait des chops spéciales, c'est forcément un gros catcheur? On est au Japon, on a un patrimoine culturel, on a le judo, qui est un art martial basé sur les projections
bien avant David Douillet.
Exactement. et pourquoi on n'aurait pas un judoka? Et pourquoi on n'en ferait pas un vieux maître tout gringalé qui te chope? C'est-à-dire que
il voulait vraiment
aller à l'opposé justement de ce qu'on a vu avec des Muscle Power ou des Zangief, etc. C'est mettre un petit papy tout petit, tout gringalé, mais qui te chope, qui te jette, qui te projette, etc. Ils ont vraiment voulu aller à contre-courant de ce qu'on avait déjà vu à l'époque pour proposer un personnage qui chope et un personnage mobile, un chopper mobile.
Et avec un stage de ouf.
Ah ouais, son stage était juste magnifique.
Il est comment son stage?
Ah oui, c'était un dojo.
C'était un dojo, mais en plus,
un dojo avec des paravents.
Des paravents.
qui était destructible. En fait, quand on passait dans l'autre plan, on détruisait un des paravents qui était en face, et on pouvait se cacher derrière les
paravents. Derrière le paravent.
C'était énorme, c'était énorme, c'était énorme.
Derrière les paravents qui n'ont pas été détruits encore. Et ça, c'était juste impressionnant.
Quand tu ressortais, tu pouvais surgir du paravent.
C'était un élément du gameplay.
C'était quand même un élément difficile à gérer. Parce que toi-même, tu vois pas ton perso derrière, donc t'es un peu perdu.
Non, mais tu sais où il est. Parce que si tu connais, alors que l'autre ne sait pas, pour de vrai.
Mais ça reste un élément quand même un peu difficile.
Donc en fait, quand un adversaire abusait trop de ça, dès le début du round, on saccageait tout le niveau pour être sûr qu'il puisse pas se cacher derrière un paravent.
C'est vrai, en fait. Mais c'est vrai. On faisait plein d'allers-retours pour être sûr, en fait, de nettoyer le stage.
Tu te caches ou tu te caches pas. Et ce qui était en plus génial, et là, encore une autre preuve qu'ils voulaient vraiment aller plus loin, donc ils ont fait un petit vieillard, tout petit, gringalet, hyper mobile, rapide, chopper, et ils lui ont donné un projectile.
Quoi?
Pour dire en fait, pourquoi pas, pourquoi le chopper ne pourrait pas acheter un projectile? Et en fait, il jette une espèce de gâteau au riz, je sais pas quoi. Là. Non, mais c'est vrai.
Hein. Et qui était très embêtant, mais c'est vrai en plus.
Gâteau au riz.
Ouais, parce que du coup, il gardait une certaine distance. Puis quand il s'approchait de toi, tu flippais.
C'était un chauffeur. Génial. Bon, comme il était petit, ses membres n'avaient pas beaucoup d'allonge.
Ouais, donc ses normaux étaient.
Le voir choper Big Beer.
C'était juste impressionnant. C'était juste impressionnant d'avoir ça. Et en fait, c'était dans la volonté de SNK de se dire, on va arrêter. Donc effectivement les archétypes
on sort par des Capcom archétypes de Capcom ça y est
sont bons effectivement les gens les ont adoptés et la concurrence qui a suivi donc les World Heroes Fighter History etc se sont grandement inspirés mais eux ils ont dit écoutez nous on va proposer quelque chose de totalement révolutionnaire et nouveau puisque de toute façon on a établi un gameplay qui se démarque et on proposera des personnages qui au-delà même de leur charisme, de leur design qui est unique, on me proposait un gameplay qui est complètement aux antipodes de ce qui a été attendu. Mmh. Et le personnage de Joubert en est le parfait exemple. D'accord. Personne n'aurait imaginé à l'époque qu'un chopper puisse être rapide, agile et avoir un projectile de loin. C'était juste
c'est bon ça. C'est toujours avec donc les références, malgré tout, à Street 2 dont on parlait tout à l'heure, mais en vraiment gardant une originalité totale.
Exactement. D'accord. Donc ça c'est pour Jubei Yamada.
Alors,
donc
là on a. Je sais pas si on va avoir le tour de faire tous les personnages, mais s'il y a deux trois autres personnages,
on va se dépêcher parce qu'on est
marquants,
on est presque à la fin. C'est quand même l'arrivée de Kim Kapwan. De Kim Kapwan.
Moi je dis King of One.
Et Kim en fait c'est
un peu le guile entre guillemets du jeu, mais
mais sans projectile.
Voilà, mais sans le projectile.
C'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont dit on va faire un personnage à flash kick, donc Kasra Kim,
et
à charge, donc voilà, mais qui n'aura qu'un seul coup à charge en fait, c'est son flash kick, et que le reste ça n'a rien à voir en fait avec Guile, c'est-à-dire qu'il aura son dive, son espèce de dive kick là qui descend, qui était juste impressionnant à l'époque, et son car arrière pied. En fait, ils se sont dit mais pourquoi les personnages à charge seraient juste à charge. Voilà.
Ouais, bonne question.
Donc ils ont fait un mec avec un flash kick effectivement pour que les joueurs de Guile retrouvent quand même espèce de d'équivalent,
une référence
en termes de gameplay de manip, mais que tout le reste n'a juste rien à voir et que de toute façon, ce qu'ils ont voulu faire avec Kim, c'est qu'ils se sont dit y a des karatékas, nous on va mettre un mec qui fait du taekwondo.
Dans vos culs.
Et voilà,
karaté
et un mec
coréen.
Qui fait du taekwondo et qui sur Street Fighter 2, il y avait Balrog, M. Bison, le boxeur qui se bat avec ses poings. Nous on va mettre un taekwondo qui se bat avec ses pieds. On va lui mettre un petit point parce que dans taekwondo, il y a l'utilisation des points, mais que genre son gros point, c'est un coup de pied.
D'accord.
Et ça c'était aussi juste
trop bien quoi.
Génial pour l'époque.
Et puis niveau charisme, le kimono de taekwondo, ça se pose là quoi.
Ça en jetait et puis le personnage il avait une sa furie quoi, elle a juste fait énorme le pas mal. C'était l'une des furies les plus impressionnantes.
Et puis en plus nous en France, on avait forcément quand on entendait ce bruit là, on avait forcément la référence de Ken le survivant,
mais c'était volontaire de toute façon. C'était complètement une référence à Okutan Weekend où il te met plusieurs coups à la suite et qui finit avec un super finish à la fin. C'était juste impressionnant. Kim qui va être un personnage qui va être gardé, réutilisé, réexploité
dans quasiment tous les trucs SNK
Un personnage au fort charisme, de toute façon.
C'est marrant parce que tu vois, j'ai quand même joué Kim dans plusieurs jeux depuis comme ça. J'avais jamais, en fait, imaginé que le coup du flash kick de Kim, c'était parce que à la base, il fallait faire une référence à Guile, tu vois. Moi, je me suis dit,
il faut faire une référence à Guile, on est d'accord,
c'est plus un pied de nez que une référence.
C'est exactement.
Moi, j'aurais jamais fait le rapprochement entre Guile et Kim, tu vois. Enfin, des flash kicks,
parce que
t'es
un jeune con.
D'après toi, pourquoi on fait les podcasts de Bagro Point? Les jeunes cons, ils apprennent, hein.
Tout à fait.
Alors on a l'arrivée évidemment de Mai Shiranui et alors là pour faire plaisir à Waycook, juste je précise un truc, dans un jeu de combat SNK, je dis bien SNK, il y avait jamais eu de fille avant. Donc là on arrive vraiment, c'est l'arrivée d'une demoiselle qui en plus
Ils ont juste pondu le personnage féminin le plus charismatique des jeux de combat.
Qui fait complètement référence pour plein de choses à Chun-Li et qui est pourtant radicalement différente. Vraiment, le but du jeu, c'était de dire, voilà, vous avez votre Chun-Li, très bien. Nous, on a notre maille, vous allez voir. On va vous faire un truc de...
Elle est plus bonne.
Et le débat perdure encore.
Qui a les plus gros seins, qui, etc., etc. Bah,
c'est la là, première c'est... fois...
Une a gagné pour les seins, l'autre pour les cuisses.
C'est la première fois qu'il y avait l'animation de la poitrine du personnage.
Alors, on peut peut-être,
mais elle n'était pas aussi prononcée que ce qu'on a pu voir dans Coff.
Et puis, on peut dire que suivant sa pose
de victoire.
Ouais.
Où
ça faisait un petit bang.
Ça faisait un petit rebond. Et là, ça a marqué tout le monde à l'époque. Tout le monde était, what the hell? Qu'est-ce que c'est que ça?
Et juste préciser que suivant la localisation, du coup, les seins ne bougeaient pas.
Oui,
selon la version américaine, japonaise. J'ai cru voir en jouant contre Mei, elle avait pas un stage avec des poteaux, des drapeaux.
Elle était sur un radeau, en fait.
Justement, donc, puisqu'on en parle, Fatal Fury 2, c'était aussi l'apparition des stages à scrolling.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'un stage à scrolling? C'est un stage où le décor va changer, le fond du stage va changer.
Quand le décor
pendant le match, il défile. Ouais. Il défile. Donc, là, sur le coup, on était sur une espèce de radeau qui défilait sur une espèce de rapide et tout ça, avec un décor complètement fou, en mode Japon, avec des statues, Bouddha,
des machins,
c'est juste génial. Et en fait, la particularité de Mai, c'est qu'elle avait un coup spécial exactement comme la griffe, Balrog
dans Street Fighter 2.
C'est-à-dire qu'elle avait un coup où soit elle utilisait des espèces de poteaux qu'il y avait dans son stage pour rebondir sur toi et aller vers toi, et si elle se retrouvait en dehors de son stage, elle rebondissait contre le mur, exactement comme la griffe qui utilisait soit sa grille dans son stage, soit les angles du mur
si t'es pas en son stage.
D'ailleurs, on peut pousser la comparaison encore plus loin avec Vega, parce que Mai, c'est un perso qui est caractérisé par un gameplay très très aérien.
Très aérien, de toute façon, elle fait du ninjutsu. Donc Vega, qui faisait du ninjutsu espagnol, et pareil, ils se sont dit, on va faire un personnage hyper mobile, agile, etc. en l'air, et pourquoi elle n'aurait pas de projectiles elle aussi? Et du coup, ils lui ont donné le fameux cache-sen, d'éventail, où elle en récupère un autre juste après. Et elle se bat avec une arme, donc avec un éventail, parallèlement à la griffe, avec Vega qui se battait avec ses griffes.
Exactement.
Et donc, Vega, qui était la version forte, entre guillemets, pour les boss de Chun-Li, tels qu'avaient conçu, du coup, au départ, tels qu'ont été conçus les personnages de Street Fighter 2, on en revient, la boucle est bouclée.
Puisque finalement, ça redeviendra une fille qui sera très mobile en l'air et qui aura quand même un jeu au sol conséquent. Dans les autres personnages,
on a Shang Sizan, qui est la vraie originalité de Fatal Fury 2, parce qu'à mon sens, il n'y a aucune référence à Street 2 tout court. Là, on a un vrai personnage complètement
Petit gros qui a des pouvoirs psychiques, qui envoie des projectiles et qui se bat avec sa forte corpulence.
Le personnage anti-charismatrique, ce personnage est génial.
Charismatrique.
Tu couperas un slide.
Je crois que c'est trop tard, ça va couper. Donc premier personnage qui se battait avec sa corpulence, en fait.
Et c'est l'anti-charismatique, comme il a dit. C'est un peu comme Blanca, si tu veux, dans Street Fighter 2, où c'était une bête qui était pas vraiment stylée, qui était un peu rigolo. Là, ils ont mis Chang Sizan, qui emprunte d'ailleurs quelques coups qui ressemblent un petit peu à ceux de Blanca, mais qui, en termes de son design et de son gameplay, il est complètement original. Et en fait, pour ton histoire, c'est un milliardaire hongkongais qui décide de ce coup de
soir. Il a des lunettes de soleil et des bretelles,
Des bretelles, et il est complètement original. Et c'était le personnage chinois du jeu.
Contrairement aux tous les personnages chinois tout secs, tout musculeux, là voilà, on te sort un gros chinois,
un petit gros riche de Hong Kong qui se bat avec des projectiles, etc.
Super classe comme
et ça aussi c'était super
Hong Kong,
original.
À l'époque c'était pas chinois.
Ah oui, à l'époque c'était pas encore chinois.
Ouais, c'était anglais.
Je pense qu'on.
Mais là, on a fait le tour des personnages de base.
Personnages de base.
D'accord.
Donc on retrouve donc Fatal Fury Dojo avec de légères modifications dans leur design.
Ouais.
Les mêmes coups spéciaux dans l'absolu et. Et rien, si je veux juste noter que les stages de Andy et Terry sont aussi à scrolling. Et donc, justement, pour ça, je voulais souligner quelque chose qui est assez important. Car qui dit stage à scrolling, dit stage qui évolue.
Qui bouge, quoi. Notre personnage bouge dans le décor malgré eux.
Exactement. Et là, dans les jeux de combat où on utilise toujours le décor comme référentiel de positionnement, c'est-à-dire qu'on sait où on est par rapport au bord du stage, par rapport au décor, on pourrait tout de suite se dire que, mais si le stage évolue tout le temps, on ne sait jamais où on est exactement.
Oui.
Non. Car SNK, dès l'époque, avait proposé les références de positionnement était au sol. Et le sol, lui, était constant, puisque c'était la plateforme sur laquelle on s'affrontait.
Donc le même train, si le stade évolue, donc il y avait le train pour Terry. Donc là, le radeau dont on parlait tout à l'heure pour Mike.
Ouais, ou le bateau à Venise pour Andy.
Pour Andy.
Donc on avait nos références quand même sur le sol. Et je tiens juste à faire une petite pique par rapport à certains jeux qui sont sortis récemment et qui proposent des stages à scrolling, ce qui est toujours intéressant, mais qui ont tout simplement oublié de mettre un marquage au sol pour permettre de savoir où on est. Donc dans certains stages,
en fait, on ne sait pas à quelle distance on est du coin, par exemple.
Exactement. Donc des fois, voilà, pour certains combos qui sont spécifiques ou même pour notre gestion des distances, des fois on ne sait pas où on est. Et ouais, ça, c'est dommage de ne pas avoir pensé à ça, alors que SNK l'avait fait en inventant déjà les stages à scrolling.
En 1992. C'est-à-dire, nous sommes en 2012.
Ils ont réussi à inventer quelque chose en envoyant tout de suite le défaut et en le compensant.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont inventé les stages scrolling et ils ont tout de suite pensé à comment faire pour justement pallier aux défauts que cela pourra produire.
Donc là encore, on peut dire que ça fait beaucoup.
Pour un seul jeu. Ouais.
Et on va en profiter, donc on va parler des boss.
Ouais. Ah oui, les quatre boss, on les a oubliés.
Pour boucler Fatal Fury.
Le plus gros boss.
Donc, parmi les quatre boss, donc quatre boss non jouables qui vont pas mal rappeler ceux de Street Fighter
forcément
2. Hein,
voire carrément.
Vu que, donc on aura quatre boss qui sont Axel Hawk, le boxeur, et Axel Hawk, le boxeur, qui, contrairement à toutes les idées reçues de l'époque, n'est pas noir.
Non, il est caucasien.
Eh oui, ils ont
caucasien.
Mis un
caucasien, tu veux dire caucasien.
Ouais, c'est ce que j'ai dit.
Non, t'as dit caucasien. Non,
mais aujourd'hui, de toute façon, j'ai décidé qu'on s'était couché tard avec Nathan, je ne vous raconterai pas notre nuit.
Et donc, il y a pas mal de choses.
Les détails sur le forum.
Caucasien, donc. Donc, caucasien.
Donc, ça sera le premier boxeur blanc. Parce que ils ont dit pourquoi les boxeurs seraient
forcément noirs.
Alors on en fera un blanc, un peu gros lard, un peu bourru. Et même sa stance de combat, puisque tous les boxeurs ont une stance de boxeur, lui n'a pas de stance de boxeur, il est en mode dégagé, il a les bras tombants, il a pas de position défensive en fait de boxeur. Et il va pas mal emprunter de coups de son collègue Michael Max de Fatal Fury 1, puisqu'il aura le Tornado Hopper de la même manière que lui. Mais sinon, il aura des coups bien spécifiques.
Et on notera,
oh, il fait super mal. Et on notera que
par contre, le graphisme, après, ça, c'est une question de goût. Le graphisme du personnage est bon. Voilà.
Oui, je vois ça. Oui, en effet.
Et l'autre.
Voilà. Ce qu'il faudra noter, c'est que dans le stage des boss, des trois premiers boss, donc quand on parle de Michael Max, il n'y aura pas de deuxième plan. En fait, si vous cherchez à aller dans le deuxième plan, si on vous envoie dans le deuxième plan, parce que vous pouvez pas y aller volontairement, le A plus B ne fait rien à ce moment-là. En fait, il y a des espèces de
choses dangereuses.
Choses dangereuses.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Dans le stage, par exemple, le stage, c'est un ring de boxe de Michael Max. En fait, le ring est électrisé. Voilà, électrique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous vous faites taper ou vous faites envoyer dans l'autre plan, vous prenez des dégâts supplémentaires et vous revenez avec un knockdown.
Ça peut vous rappeler des choses comme dans
les fameuses Danger Zone.
Alors, il y avait quoi d'autre comme boss sinon?
Alors on retrouve Billy Kane du coup qui est de retour.
Le retour de Billy Kane qui est là,
il veut se venger.
Qui veut venger en fait son maître Guy Zoard et qui revient avec un tout nouveau design, un tout nouveau gameplay, une nouvelle manière d'utiliser son arme, son fameux bâton et qui lui aussi donc son stage est un stage avec un obstacle, truc dans le fond et il revient plus puissant et plus stylé que jamais. On se bat dans le Big Ben
et on tombait dans des engrenages de d'où la référence pour ceux qui jouent à King of Fighters 13 de son stage
exactement King c'est, King tout fait, c'est tout à fait ça avec même la musique qui est reprise à ce moment là donc Billy Kane
troisième boss
Lawrence Blood. Alors, dans Street Fighter 2 on nous a proposé
pour Billy Kane c'est sa fury avec les flammes.
Il n'avait pas de fury.
Non, c'est pas encore à l'époque.
Non, ils avaient
des super jouables. Spécial, j'ai spoilé, je suis désolé.
Ils n'avaient pas.
Excusez-moi, on continue.
Alors Lawrence Blood, c'est marrant parce que Capcom a mis un espagnol matador, mais qui fait rien de matador, qui fait du ninjutsu espagnol. Et c'est un cas où on dit ah bon. Eh ben nous on va mettre un espagnol, un matador, mais un vrai matador qui se bat avec sa cape
et son épée,
son décor, c'est dans une arène
avec des taureaux
qui courent dans le décor et voilà.
Et vous ne voulez pas d'ailleurs rencontrer les taureaux.
Ils font mal.
Quand on voit dans le stage au fond, tu prends les taureaux.
Et lui c'est un vrai matador qui se bat avec son épée, qui se bat avec sa cape et qui est qui a une qui a une position de combat qui est très très proche de ce que font les matadors espagnols. Vraiment, beaucoup plus que les gars. Et je pense que c'est une pique qu'ils ont faite volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont parodié un petit peu les boss de Street Fighter, mais en proposant autre chose. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un boxeur, on voit qu'il y a un matador espagnol, on voit l'ancien boss de la première version qui revient en mode vengeance, un peu comme Sagat.
Comme Sagat,
par rapport
à... Il reviendra sur l'histoire de Sagat juste après, d'ailleurs.
À Billy. Mais par contre, pour le dernier boss.
Alors, c'est là, je vais laisser Frionel en parler parce que c'est l'homme le plus charismatique du monde et que c'est l'homme le plus fort
du monde.
Écoutez
les 2 minutes du pif pour
comprendre. Je ne peux pas lui voler ça à Frionel.
Dernier boss. Alors, dans l'histoire déjà, on nous présente comme l'homme le plus fort du monde. Déjà.
Ah oui, parce qu'on va le rappeler, dans Fatal Fury 2, il y a aussi des cutscenes qui racontent l'histoire. Et il y a la montée en puissance où on voit que le boss se rapproche de nous.
Exactement.
Et qu'on se rapproche de lui aussi.
Exactement.
Voilà, tu peux reprendre le flambeau.
Qui est le dernier boss? C'est Wolfgang Krauser, l'homme le plus fort du monde, le Kaiser, l'empereur, et qui est juste énormissime.
Et qui est
le demi-frère de Guise Howard. Et Guise était un petit peu sa victime, hein. C'est-à-dire que en gros, il était plus fort que Guise, mais il savait que, en fait, il savait que s'il y avait quelqu'un de plus fort que Guise qui se présentait un jour, ça pourrait être un adversaire à la hauteur. Donc, pour la petite histoire, en fait, Krauser, qui est le premier méchant, le premier boss qui n'est pas méchant, en fait, des jeux de combat.
Ah bon?
Puisque, non.
Non, c'est le combat qu'il aime.
Il est issu d'une famille de nobles, allemande, qui était depuis toujours, en fait, qui devait assurer la protection des empereurs et rois de l'époque. Oh, et en fait, c'est une famille de gardes du corps, donc c'est une famille de sang noble, que dans toute la génération, et ben, ça a donné des combattants absolument exceptionnels.
Des bourrins,
qui étaient, auxquels on faisait appel pour
protéger. C'est pas forcément des bourrins, c'est vraiment des vrais guerriers.
C'est un noble bourrin, quoi.
Un noble bourrin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une famille.
En même temps, il a une armure,
de pur sang qui était donc destiné de génération en génération à être les gens les plus forts qui assuraient la protection des plus grands les grands souverains de toutes les générations.
Il est tellement pur sang d'ailleurs qu'il a pas les cheveux blonds, ils sont violets,
violets.
Il est vraiment pur sang.
Et en fait cet homme Krauser, en fait il est dit que dans sa génération il était le plus puissant de toute sa génération et il était tellement fort qu'il n'avait aucun adversaire à la hauteur. C'est-à-dire que en fait il a atteint un tel niveau que finalement son niveau ne lui servait à rien puisque personne ne l'amusait.
En gros, il se faisait chier.
Et quand il a appris la défaite de Guise Howard,
il était content.
Il s'est dit que peut-être que cet homme qui a vaincu Guise Howard pourrait me divertir.
C'est la sortie de son ennui, quoi.
Voilà. Et donc, il a organisé ce tournoi-là, donc ce King of Fighters, hein, c'est le nom du tournoi. Et il lui a donné une dimension mondiale, contrairement au King of Fighters de Guise qui était juste dans la ville de
Southtown.
Il a fait un King of Fighters mondial et lui, son but secret, c'était, en fait, il voulait réaffronter Terry Bogard. Mais pour être sûr que Terry Bogard était bien le plus fort, il a organisé un tournoi pour vérifier si c'est bien que Terry Bogard qui réussirait à arriver jusqu'à lui.
D'accord. Je rebondis sur ce que tu dis là, où là on exprime vraiment du coup que le gagnant du premier King of Fighters était bien.
Oui, Terry Bogard. Hein,
voilà, parce qu'on l'avait pas précisé lors du dernier podcast.
C'est nul, c'est Andy le plus classe.
Ouais. Mais il était plus classe, mais il a perdu. Voilà, c'est comme ça. Hein.
Krauser, donc, qui n'est pas méchant, qui est juste là pour affronter, avoir la noblesse du combat à main nue, comme on dit, et qui voulait juste affronter son dernier adversaire. Donc, quand on arrive contre Krauser, déjà, on a une introduction de stage. Il n'y avait pas d'introduction de stage à l'époque. C'est-à-dire que quand on commence, on ne voit pas tout de suite nos deux adversaires. Ça commence sur le plafond de son château, et la caméra descend petit à petit. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend la musique, on dit, mais que... C'est du Beethoven, puisque
c'est du Beethoven orchestral, c'est pas du midi, hein.
Beethoven orchestral, c'est le Requiem de Beethoven.
C'est pas Mozart.
Mozart, qu'est-ce que je dis?
C'est Mozart.
Non, le Requiem de Mozart, excusez-moi.
Des colombes qui s'envolent.
Et un orchestre dans le fond. Donc le Requiem de Mozart.
Qui est joué en direct live.
C'est la vraie musique, hein. C'est pas genre une musique.
C'est pas un midi pourri, quoi.
Non, mais c'est même pas. C'est-à-dire que c'est même pas une musique inventée. C'est, ils ont pris le Requiem de Mozart, un extrait du Requiem de Mozart. Et
quelqu'un leur a dit qu'il était autrichien ou.
Oui, non, mais c'est pas.
On s'en fout de ça, vas-y, c'est de l'Est, quoi.
Si, c'est l'Europe, hein. Voilà. Et on affronte Krauser, donc commence avec une armure d'or, et c'est un mec qui fait 2 mètres, il est géant, il a une carrière de catcheur, d'ailleurs, il se bat avec des techniques de wrestling, hein, de catch,
Mais en plus de ça, bah, il a des projectiles qui peut t'envoyer
des projectiles. Ouais.
Il peut t'envoyer des projectiles à plusieurs hauteurs comme Sagat.
Voilà, on en revient à la référence dont je voulais parler tout à l'heure. On parlait de Sagat, boss de fin de Street Fighter 1er du nom.
Il a aussi un espèce de coup de pied retourné comme le dictateur, le boss de Street Fighter 2.
D'accord.
Qui t'attaque. Il a des chops spéciales au corps à corps. Et il a, donc c'était son coup ultime à lui qu'il avait, le Kaiser Wave, juste bah, le projectile le plus hallucinant, le plus impressionnant de l'époque.
Le plus gros de l'époque, ouais, même.
C'est-à-dire que même Ryo, qui avait déjà un projectile de ouf, faisait « Ah, quand même
!» Parce que là, tu vois, le projectile avait quand même une forme caractéristique très précise, beaucoup plus détaillée, était encore plus impressionnant que
ce qu'on avait. Tu pouvais même pas sauter au-dessus tellement il était
grand. Non, t'étais obligé d'aller dans l'autre plan. Et là, il y avait un autre plan par contre, du coup, pour ce boss-là.
Encore heureux, parce
Bah, sinon, son jeu de projectile était juste invincible. Et Krauser, franchement, il a marqué les esprits à l'époque. Il était vraiment impressionnant. Et c'était marrant.
Et c'était vraiment le personnage le plus dur en panne de l'époque.
Il était hallucinant. Et ce qui était génial, c'est qu'à l'époque, dans les jeux vidéo, on avait de l'animosité. Contre le méchant, le dernier boss. Là, en fait, on lui en voulait pas vraiment, mais on savait que ça allait donner un beau combat.
Voilà.
Et c'était assez marrant.
Puis on en prenait tellement plein la gueule au bout d'un moment. C'est ça qui manque un peu aujourd'hui.
Ouais.
C'est arrivé comme ça devant des boss avec la surprise de s'en prendre plein la gueule.
Ah, parce qu'il y avait une vraie différence de niveau. C'est-à-dire que déjà, quand t'arrives devant Billy Kane, tu fais, ouais, déjà, c'est costaud. Le jeu, ça va. Mais quand t'arrives devant Hulgan,
c'est-à-dire que c'était une symbolique de force qui avait marqué les gens à l'époque, beaucoup plus que les boss qu'on a pu affronter dans d'autres jeux.
D'accord, ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour Fatal Fury 2.
Oui.
Alors, messieurs, je vous pose la question tout de suite. Vous voulez qu'on continue tout de suite sur Fatal Fury spécial en un seul morceau, ou est-ce qu'on fait un deuxième morceau?
Oui, parce que Fatal Fury spécial, c'est
alors qu'est-ce que
l'appeler Fatal Fury 2 spécial en fait.
D'accord. Alors, il s'appelle pourquoi Fatal Fury 2 spécial avant même de demander.
Parce que Super Street Fighter 2 Turbo.
Parce que c'est la version améliorée de Fatal Fury.
Alors, en fait, Fatal Fury spécial, c'était pour eux en fait, grosso modo, Fatal Fury 2, c'était le vrai Fatal Fury puisqu'ils avaient vraiment fait le jeu dont ils voulaient. Là, ce qu'ils voulaient, c'était dire, voilà, on en fait un vraiment spécial. On va rajouter des choses, on va en parler dans un court instant. Il faut savoir que c'est le premier Fatal Fury qui ne fait référence à aucun scénario. C'est-à-dire qu'il y a un scénario, mais qui n'est pas canon, en fait. Il est hors...
C'est un épisode, c'est un Gaiden.
Voilà.
C'est
un Dream Match, tout ce que tu
Exactement,
veux.
Voilà. Tout à fait.
Et donc, Fatal Fury spécial, en quelques mots, c'est donc la suite de Fatal Fury 2. Mmh. C'est une reprise du moteur graphique et visuel de Fatal Fury 2 dans son intégralité.
Il y a deux trois améliorations, mais graphiquement ça bouge pas.
C'est-à-dire qu'on reprend vraiment les mêmes principes, le même moteur de jeu, mais que cette fois-ci on va pousser le gameplay, on va l'améliorer et on va proposer quelques nouveautés quand même au niveau des personnages. Et ça c'est assez intéressant.
Oui.
En fait, pourquoi il va s'appeler Fatal Fury spécial, puisque finalement il n'y aura pas vraiment de nouveaux persos, mais on verra
le pas, d'ailleurs.
Il y en a un.
Ouais,
entre guillemets.
Ouais, vas-y.
Bon, allez, on avance, s'il vous plaît, parce que là, on va arriver un peu long. Qu'est-ce qu'il arrive?
En fait, on reprend des personnages de Fatal Fury 1 qui n'étaient pas dans Fatal Fury 2.
D'accord.
Donc, c'est l'apparition de Duck King. Donc, le retour de Duck King.
Yes,
le
qui est jouable,
qui est jouable. Le retour de Tung Fu Ru.
Donc le petit vieux qui a joué Tortue Géniale.
Oui, retour de Giz Howard, qui est jouable.
Giz Howard jouable.
Qui signe aussi le fait que les boss deviennent jouables également.
Tu pouvais jouer Krauser, donc?
Tu pouvais jouer Krauser, tu pouvais jouer Billy Kane, tu pouvais jouer tout le monde.
Ça devait rager, non?
Les personnages étaient, du coup, retravaillés, parce que là, les personnages d'origine n'avaient pas été conçus pour être jouables, alors que là, ils sont jouables par principe.
Et ils sont vraiment retravaillés, c'est-à-dire que contrairement à ce qui a été fait sur Street Fighter 2 Dash, où certains personnages avaient la même animation pour les mêmes coups, pour Fatal Fury spécial, les boss deviennent des vrais persos avec leur gameplay, leurs éléments de gameplay, l'intégralité de leurs coups, tous leurs déplacements, etc. Et, au niveau du roster du jeu, donc là, on se retrouve vraiment face à quelque chose de très 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 conséquent pour l'époque, puisqu'on a
16 persos, non ?
15 persos 15 jouables.
En T8 plus 4 plus...
De base.
Ouais,
de base. Mais on est en 93.
Et nous sommes en 93, fait, je vérifie avant de dire...
93, 15 ou 16 persos jouables, ça.
Ouais,
15 persos jouables.
C'est en fait, mal, c'est 15 plus 1, on va dire.
Oui, on va en parler.
Avant de revenir au plus 1, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'ils ont raffiné dans le système de jeu?
Alors,
en fait
déjà, la vitesse de jeu est accrue, puisque le jeu est plus rapide.
Ouais.
Ils sont essayé de s'aligner sur ce que faisait Capcom à l'époque, donc avec leur Hyper Fighting, etc. Donc, ils ont proposé un jeu plus rapide, donc plus dynamique. Mais surtout, la grosse innovation, c'est que les combos deviennent une part du gameplay.
Septembre 93.
D'accord.
Donc, on se retrouve donc avec un système de cancel qui est très très proche de ce qu'on a pu voir avec avec Street Fighter 2, puisque là les attaques normales peuvent s'enchaîner avec des coups spéciaux.
Alors je fais juste une toute petite parenthèse du coup par rapport à ça. On a parlé la dernière fois lors de notre dernier podcast de Super Street Fighter 2. Je rappelle qu'à ce moment-là, quand SNK va sortir les premiers location tests de ce jeu-là, Capcom va vraiment pour la première fois d'SNK avoir peur. C'est-à-dire, et c'est pas se dire tiens c'est une équipe qui fait des jeux bien, du coup bon ça fait un bon challenger etc. Non là c'était attention, nous du coup aujourd'hui avec nos jeux il y a rien qu'on puisse proposer pour l'instant qui soit à l'identique de chez SNK. Ils ont là avec le spécial SNK a pris de l'avance
là,
vraiment.
C'est la première fois en fait dans la rivalité Capcom SNK où SNK se
prend de l'avance sur Capcom.
De l'avance claire et nette. En fait ils se sont dit plutôt que de continuer à faire des jeux repris à zéro, on va faire comme Capcom, on va prendre notre bébé, Fatal Fury 2, et l'améliorer. Et quand on dit améliorer, c'est vraiment... En fait, les petits changements de mécanisme, ils vont bien se rééquilibrer le jeu, certains abus vont être rebalancés.
Les persos du 1 n'ont rien à voir avec déjà, ce qu'ils étaient dans le 1.
Des personnages du 1, de toute façon, sont
considérés comme des nouveaux personnages.
Ils sont refaits complètement.
Tokuro, par exemple, ne se transforme pas tout seul en vieux géant, etc. Enfin, ils ont vraiment un nouveau gameplay. D'ailleurs, il faudra noter que ces nouveaux personnages ont tous leur stage a tous une introduction, à l'instar de Krauser, donc Geese, Duck et Tungfuro ont une introduction à leur stage. Leurs stages sont juste magnifiques.
Tungfuro, tu vois le ciel brumeux, ça descend, et t'es sur une forêt avec un pont.
Clairement, c'est mon stage préféré d'ailleurs du jeu.
T'es en boîte de nuit, la lumière est éteinte, t'as un jeu de trucs, machin, c'est juste génialissime. Et Geese Howard, bon, bah,
qui revient avec son thème.
Mais Geese qui revient avec sa musique, qui est plus classieux que jamais, enfin, déjà en termes du design, le design des nouveaux personnages, il est vraiment vraiment très réussi. Les raffinements, les réajustements de gameplay, qui ont été faits pour les anciens persos sont très très bien pensés. Ouais. Là, on a vraiment un chef-d'œuvre de SNK qui aujourd'hui est encore joué.
Merci. Ouais. C'est ça que je voulais revenir là-dessus. Il y a certains jeux comme ça qui n'ont pas de temps, c'est-à-dire qu'on continue à y revenir régulièrement, etc.
Ils n'ont pas eu de nouvelles améliorations. Voilà. C'est un peu comme Super Street 2X.
Exactement.
C'est la version originale de Fatal Fury, version originale, on va dire.
Ce jeu-là n'a pas pris une ride, mais pour de vrai, c'est-à-dire que si jamais vous décidez de vous mettre dans ce jeu aujourd'hui, il y a pas, vous allez pas vous dire ouais bon ça a vieilli. Oh, graphiquement oui évidemment ça a vieilli, mais le jeu est fantastique.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti sur Xbox Live Arcade, hein, vous pouvez le trouver sur Xbox 360. C'est bien ce jeu là et pas un autre, c'est bien pour ça. Il a vraiment vraiment une aura et une personnalité qui est juste
au niveau du système de jeu. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré en fait globalement? Je parle pas par personnage, mais qu'est-ce qu'ils ont amélioré dans le système de jeu?
Donc en fait ils ont donné une possibilité, donc je rentre pas trop dans les détails, mais le backdash devient cancellable, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez cancel le recovery de votre backdash par un coup spécial.
Sans deck.
Ouais. Oui. Donc ça veut dire que par exemple tu fais un backdash invincible enchaîné.
Vous pouvez cancel le recovery de votre backdash.
Ouais, c'est fou. C'est-à-dire que tu fais un backdash où tu es invincible et normalement le backdash a un recovery à la fin. Ouais. Tu peux annuler le recovery en fait par un autre coup spécial qui sera encore invincible.
Donc tu reportes l'invincibilité.
Tu décales. Tu reportes l'invincibilité et tu reportes le recovery. Et ça, c'était.
C'est craqué.
Non, mais c'est un élément de gameplay qui change tout. Hein, là.
Les coups sont plus rapides, les projectiles sont plus rapides, les dragons ont plus d'invincibilité. En fait, si t'as aimé Fatal Fury 2,
tu peux que aimer Fatal Fury spécial.
Tu vas adorer le spécial.
Ce qu'il y a certains jeux où la suite, ben, on regrette certains éléments de l'épisode d'avant, mais pour Fatal Fury 2, Fatal Fury spécial, en fait, il a fait en sorte que Fatal Fury 2 n'existe plus. Fatal Fury 2 a complètement disparu de l'histoire de Fatal Fury.
Non, mais le jeu n'a vraiment, c'est vrai, plus aucun intérêt. C'est-à-dire
il l'a envoyé aux oubliettes. D'accord. Le seul intérêt de Fatal Fury 2, c'est peut-être l'écran de sélection qui était marrant, puisqu'on voyait les sprites de ces personnages.
Ouais, en entier, ouais.
Alors que dans Fatal Fury spécial, on a des petites cases.
Des portraits, ouais, comme d'habitude, quoi, ouais.
Là, on est vraiment à, en fait, SNK démontre sa capacité à proposer. C'est-à-dire que quand ils refont un remake d'un jeu, ils le font pas à moitié.
Ils le font bien,
c'est
quoi.
C'est des vrais nouveaux persos. C'est là, quand ils, c'est pas,
on y a, fait y un. Il y a aucun point, ce que, en fait, ce que je veux dire, il y a aucun point où tu te dis, là, ils ont bâclé ou là, ils sont allés à la facilité. Voilà. C'est surtout ça.
À aucun moment. Ok, on fait un épisode avec les boss jouables, pas de problème, mais on fait pas que ça. On te ramènera trois nouveaux persos et c'est des personnages que tu attends, que tu kiffes, etc.
Que tu veux, quoi. Ouais.
Et les boss qu'on fait jouables, on va les travailler, on va avoir un gameplay, ils ne seront pas abusés des équilibres.
Fan service, mais pas juste, tiens, on vous balance les persos, quoi.
Voilà. et qui dit fan service, en plus les décors ont été retravaillés,
oui.
Pas mal d'éléments dans les décors ont été rajoutés, des petits clins d'œil, des petits détails, des couleurs, l'interface générale du jeu a été changée, la manière d'utiliser les furies, les effets des furies pour certaines ont changé, on rajoute des furies au boss avec des manipulations encore plus
folles que d'habitude, plus
farfelues. On tient vraiment le jeu de fan service ultime pour les fans de Fatal Fury.
Ouais.
Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, le jeu cache un secret absolument génial.
Je sais même pas ce que c'est là, pour le coup.
Donc faut y aller pour le débloquer.
C'est pas ce que j'allais dire. C'est un vrai secret. Hein.
Un secret, mais qui va même devenir une espèce de légende urbaine qu'on se racontera dans les cours de récré et qui ne sera pas cru.
Il y avait des gens qui trouvaient que c'était tellement impossible d'y arriver
que
ça n'existait pas.
Et que de toute façon, ça semblait issu de l'imagination d'un collégien de l'époque.
Ouais, je fais juste une parenthèse sans dire ce que c'est. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit sur Shenlong. Voilà, donc, j'en dis pas plus.
Donc voilà. Et ben, pour ceux qui réussissent à finir Fatal Fury spécial sans perdre de round,
on dit bien de round, hein.
De round jusqu'au bout, ont le droit d'affronter un ultime challenger, puisqu'il s'agit de Ryo Sakazaki de la série d'Art of Fighting, qui est dans le jeu avec son stage, son gameplay, tout. C'est un nouveau perso. Il a été repensé pour être jouable dans Fatal Fury avec un gameplay à 4 boutons. Il a une furie, il a ses coups spéciaux, il a rien. C'est un nouveau perso.
D'ailleurs, l'introduction du match, je crois que c'est marqué Dream Match.
Exactement.
Dans le jeu.
Et c'est un Dream Match, c'est-à-dire que le match de vos rêves. Vous pouvez affronter un personnage d'une autre d'un autre jeu SNK.
Tu peux enfin faire qui était le plus fort entre Terry et Ryo. Exactement. Que tu rêvais, qui donnera King of Fighters ensuite.
Exactement. C'était la base même, la source de King of Fighters. En fait, au moment de Fatal Fury Special, ils avaient déjà l'idée de faire un affrontement entre les deux mondes. Et ils se sont dit, on va tester le concept en mettant juste Ryo Sakazaki et voir ce que ça donne.
On voit s'ils kiffent les gens, quoi.
Voilà. Et c'était juste génial.
Et c'est pas qu'ils ont kiffé, c'est qu'ils ont adoré.
Et c'est pas juste un boss caché.
Puisque sur la version Neo Geo, il est jouable. On peut le débloquer. Et c'est un personnage qui est complètement là, hein. Et donc,
complètement là, c'est-à-dire que bien maîtrisé, Ryo, il est craqué, hein.
Il est vraiment très très fort. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu voir que le gameplay de Ryo, on remarque que il n'a pas d'équivalent dans Fatal Fury. Donc, il n'y a pas d'histoire de clone de Ryu, de machin. Lui-même, en tant que tel, c'est un personnage à part entière dans l'univers des Fatal Fury. Et donc, il y a vraiment un gameplay propre à lui. Et l'accueil des gens à l'époque était juste ultra positif. Puisque, on n'en demandait pas autant.
Oui, d'accord.
Déjà, le jeu était parfait.
C'est ça, en fait. Et ça, c'est la force de SNK, pour moi.
Alors qu'aujourd'hui, on te le ferait payer, ton Ryu.
C'est pour moi la force de SNK à l'époque. C'est qu'ils étaient très très forts pour faire ça. En fait, ils te proposaient un produit parfait et on te donnait.
Et si tu l'avais dosé, tu voyais qu'il y avait encore des trucs derrière.
Bien sûr.
Mais c'est un nouveau personnage. Bah oui, bien sûr.
Bah oui,
c'est Fatal Fury spécial.
Bah oui,
je savais pas.
Et oui. Et c'est un jeu plus.
Voilà.
Et je pense que ça va nous permettre de conclure sur notre retour sur les Fatal Fury. Pensez à tout ce qu'on a dit sur Fatal Fury 2, gommez les défauts. Et vous avez Fatal Fury spécial avec plus de coups, plus de persos, plus de possibilités,
plus de surprises, tout quoi.
C'est pas juste une version prime.
Et puis voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas passé. Tu parlais tout à l'heure des clins d'œil qu'il y avait dans les stages, mais c'est bourré de références à l'univers SNK tout le temps. Même pour le fan service, c'est-à-dire le truc qui n'a rien à voir avec le gameplay. T'es même content de regarder un match. Oh regarde derrière, il y a ces machins. C'est un truc de malade.
On verra après dans beaucoup de jeux.
Bien sûr, SNK, le fan service va être repris puisque ça va devenir un de leurs fers de lance,
de leur marque de fabrique.
Le fan service.
Alors on disait qu'il y avait pas de scénario dans le jeu. C'est un dream match, mais en fait il y a scénario derrière quand même, hein. Il se passe des choses,
ouais,
il y a aussi,
sûr,
voilà,
y a,
c'est
y a,
là,
y a
on
y a des dialogues entre les personnes.
Voilà, exactement.
Toujours.
Qui, même des fois, qui sont très rigolos.
D'ailleurs, une des forces de jeu, une particularité de ce jeu, c'est que les dialogues, dans la version japonaise, sont caractères spécifiques. C'est-à-dire que chaque personnage s'adresse à une winning code qui est différente.
En fonction de l'alternative.
Exactement.
C'était une nouveauté, dans Fatal Fury Special.
Ouais, c'était une nouveauté.
Qu'on retrouve dans beaucoup de jeux maintenant.
T'avais dans Art of Fighting t'avais qu'un personnage, donc entre guillemets, quoi. T'en avais deux, mais
ça fait tellement de travail d'écriture que c'est pas si courant.
C'est pas si courant.
En fait, dans la plupart des King of Fighters, c'est présent, mais que en japonais. Quand tu joues avec les dialogues anglais ou dans une autre langue, ils n'ont traduit qu'une winning quote spécifique.
D'accord.
Donc voilà, généralement c'est ce qui se passe.
Un petit peu près.
Voilà, donc moi c'est tout ce que je peux vous dire. Pour ma part, go Fatal Fury Special, retestez le jeu, il est vraiment vraiment génial. Si vous aimez les jeux un peu old school mais un peu plus riches et plus intéressants que vraiment les jeux de base, n'hésitez pas à essayer Fatal Fury Special.
Voilà. Avec il un pote, super, c'est super. Bien, on a découvert ensemble, c'est...
Il est disponible sur 360 avec un mode online.
Exactement.
Disponible sur PlayStation 2 dans la compilation Fatal Fury Battle Archives numéro 1 qui est sorti en Europe.
Très bonne compilation.
Il est pas sorti sur Wii. Il est pas sur le Neo Geo.
Non, pas encore sur PlayStation.
Sur la version Wii, c'est bien la version Neo Geo, parce que des fois, d'accord. Ok, parce que des fois sur Wii, t'as...
Non, c'est surtout sur un jeu Capcom où t'as plutôt les versions Super Nintendo que la version arcade.
Je termine juste une petite parenthèse, parce qu'on parlait, on disait, mais pourquoi du coup SNK n'a jamais autant décollé chez nous que Capcom? Je rappelle juste qu'un jeu SNK coûtait une véritable fortune pour pouvoir y jouer dans des manières décentes, et que les adaptations sur Super NES des Street Fighter ou des Fatal Fury n'avaient aucune équivalence. Hein. C'était bien plus agréable de jouer un vrai jeu de combat, du coup, dans ce cas-là, qui était Street Fighter sur Super NES, qu'un...
Sachant que Super NES était encore pire, parce qu'en Europe... Ryo était jouable tout de suite, mais ils ont fait enlever d'autres personnages pour faire une cartouche de 20 mégas au lieu de 32.
Bon, bah, je crois qu'on a compris au final, moi, ce que je voulais en venir pour cette conclusion, c'est qu'on comprend vraiment, en fait, en quoi Fatal Fury 2 est spécial, en fait, surtout le spécial, sont au final des jeux vraiment essentiels.
Les deux, en fait, historiques.
Oui, voilà. Sont vraiment des jeux essentiels, non seulement dans la vie des SNK, mais dans la vie de tous les jeux de baston en général. Et qu'au final, il y a des trucs, enfin, rien que la présence de Ryo, tu vois, je savais pas du tout. Ça annonce mais tellement de choses. Nous, on sait parce qu'on a l'histoire pour nous maintenant, mais ça annonce tellement de choses dans le futur ensuite.
On remet les choses dans le contexte. On est 92-93.
En fait, en faisant ça, ils ont débloqué notre imagination.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils nous ont permis de voir, de concevoir l'inconcevable à l'époque. Mmh. Et ça va faire, c'est ce qui va être la source d'énormément de
ça
jeux et de séries.
Ça va faire boule de neige.
Voilà. Puisqu'on va commencer à se dire, mais attends. Si on peut avoir Ryo dans Fatal Fury, mais tout est possible.
On peut avoir X-Men contre Street Fighter.
Exactement. C'est ça, exactement. C'est ce qui va donner lieu à tout ça.
Et d'ailleurs, les premiers vrais échanges entre Capcom et SNK, pas des deux boîtes, mais de l'extérieur, les joueurs disaient, ouais, tu verrais, moi, il y aurait Ryu, je te casserai la figure, etc., sont nus de ces aimants-là.
Bien sûr. Parce qu'en fait, on a commencé à se dire qu'une boîte qui développe deux jeux, peut associer ces deux jeux, et c'est ce qui va donner, comme on a dit, Capcom a fait un X-Men, ils font Street Fighter, rien ne nous empêchait d'imaginer ça, de plus que dans le premier X-Men, pour en parler, il y a Gookie qui est jouable, ils sont directement inspirés de ce qu'a fait SNK pour eux aussi annoncer.
Donc SNK, premier précurseur timide en fait du crossover, avec Fatal Fury Special.
Arrête pas de te le dire, ils ont inventé plein de choses.
Sur Art of Fighting 2, il y a Guizzo Ward, boss caché. Donc comme Ryo, boss caché de Fatal Fury Special.
C'est une réponse.
Guizzo Ward, boss caché d'Art of Fighting.
Mais c'était pas le même Guiz, c'était le Guiz jeune, tu vois, parce que c'était le même truc. Là, c'est autre chose.
C'est un vrai dream match, c'est-à-dire normalement Ryo devrait être plus vieux.
Oui, voilà.
Où on est joué.
Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour Fatal Fury 2 et Fatal Fury spécial. Je vous remercie, c'était super instructif, c'était vraiment très intéressant tout ça. Et c'est cool, en plus on a réussi à peu près à mélanger les deux, expliquer, c'était bien.
Voilà. Donc faut conclure.
Je vous remercie, messieurs. On se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Normalement, ce sera soit Virtua Fighter, soit Samurai Shodown.
N'annonce rien, on sait jamais ce qu'on
sait
faire.
Jamais là, parce que
dans 2 ou 3 ans.
Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais bon, on va essayer de les faire très vite. Donc, on espère que vous avez apprécié ce podcast. On vous dit à la prochaine et on vous remercie. Allez, salut tout le monde.
Salut. Ah oui, la version européenne de Fatal Special, il y a vraiment une version.
Alors là, on est désolé alors, pour le bruit.
Bon, allez, on va
c'est le nouvel an chinois.
On va conclure, donc, je pense, sur du feu d'artifice qui est mérité, je pense, pour Fatal Fury de spécial.
Bravo,
hein.
Bravo.
C'est clair, bravo, c'est merci, le nouvel an chinois. Eh ben, écoutez, les gars. Non, attendez, on va peut-être attendre un peu que le son soit fini.
Non, je trouve que c'est la classe.
Non, non, c'est
finir.
Bon, vas-y, on en a apothéose.
Allez,
ça va passer un peu.
C'est la fin du scénario, là.
Bon, bah, écoutez, messieurs. Bon, bah, je vous remercie pour votre temps pour le podcast. Donc, ouais, on apprend beaucoup de choses, en fait, sur...
Ah bah, c'est fini.
Non, ça ah, je crois que ça y est, c'est fini. Bon, on refait le... Tu nous couperas le truc.
Ah, dommage, j'aimais bien.
Oh non, c'est vraiment trop inaudible.
Ah bon.
Donc, merci à tous hein, pour d'avoir suivi ce cast. Merci à vous d'être avec moi aujourd'hui.
Je crois que c'est pas moi qui dis ça normalement.
Là, t'as complètement passé la
main. Il t'a bagdaché.
Non, mais vous m'avez Fatal Furisé la tête là quand même.
C'est toi qui le fais, alors on essaie de.
Ouais, non, mais c'est vrai que franchement, en fait, c'est quand même.
Il paraît que t'as une voix dégueulasse et que les gens ils l'aiment pas.
Pas tous.
On la refait ou.
Bon allez, troisième.